Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Cette petite musique qui nous donne envie de charger le coffre ou le top case, hein, ou même le sac à dos. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour.
Prête à se balader avec nous ce matin?
Bah oui, toujours.
J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez envie de vous promener, surtout dans cette belle région que nous allons parcourir ce matin. Si je vous dis la Vallée des Rois,
oh.
Vous pensez à l'Égypte, hein?
Non, je pense à Nantes, Loire, tout ça.
Oh, Nantes, bon, c'est bien au-delà.
Il y a des châteaux aussi.
C'est bien
de ce
au-delà.
Côté-là.
Non, on va dire que ça va plutôt s'étendre entre le Blaisois. On va dire, allez, on peut même remonter jusqu'à Orléans, mais en tout cas, Blois jusqu'à l'Anjou. Ça, c'est la vallée des rois.
Ah.
Avec les châteaux de la Loire.
Ben oui.
Voilà, la
évidemment.
Vallée de la Loire. Avec tous ces châteaux, toute l'histoire qui s'y rattache. C'est un peu l'histoire de la Renaissance française aussi. Hein, sous l'égide de grands roi tel que François Ier qui a marqué de sa personne cette région de France, les Valois en général, et on va se promener entre gastronomie et sites touristiques. Et puis dans la première heure, d'ici un quart d'heure environ, on va se poser la question d'été, la question de vos vacances, quelque chose qui nous taraude. Est-ce que vous êtes travaillé par votre conscience, Marine, au moment de la canicule? Est-ce que vous avez cette question qui revient chaque année? Est-ce que cette année j'installe la clim à la maison?
Non, on reste malheureusement toujours avec notre ventilo, surtout quand on voit la facture d'électricité.
Voilà. Heureusement que la facture nous retient souvent, ça nous permet de penser un peu à la planète. Moi, j'ai mauvaise conscience. Je ne veux pas sacrifier le bonheur de mes enfants, c'est-à-dire le bien-être de la planète, à mon petit confort personnel. Mais chacun a une opinion là-dessus et on va essayer d'y voir plus clair avec des spécialistes, un médecin et un spécialiste d'écologie qui vont nous donner des pistes. D'abord, peut-être pour savoir exactement ce qu'il en coûte en bilan carbone, et aussi peut-être des solutions pour se rafraîchir, parce que la chaleur, ça n'a pas que du bon, surtout quand c'est très chaud. Allez, tout de suite, on va découvrir la revue de presse de Marine Van Tournout.
Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions.
Marine, ce matin, bon, évidemment, l'actu, c'est la canicule, c'est la chaleur, c'est la sécheresse, c'est le climat, et la couleur qui domine, c'est le rouge.
Oui, rouge comme alerte rouge, l'aube dans le rouge pour l'Estéclair, alerte rouge pour le Loiret, dans la République du Centre. Se pose ensuite la question de l'eau, dans la Marseillaise, qui s'interroge à cours d'eau en pleine canicule, point d'interrogation, et nous invite à la vigilance. Des nappes phréatiques sont à sec, des restrictions dans certains secteurs, même inquiétude dans le Berry républicain, qui titre « L'eau potable, l'autre alerte ». Ce matin, 20 départements du Nord sont encore placés en vigilance rouge et 60 en orange par Météo France. Alors patience, car comme Rémi André le disait un petit peu plus tôt, eh bien, le pic de la canicule c'est prévu pour aujourd'hui. Avec 42 degrés dans certains endroits, hein. Seule la pointe bretonne et la Corse sont un peu épargnées aujourd'hui.
Ouais, vous avez en Belgique aussi, vous avez souffert, hein. J'ai vu ça. Hein.
Ouais.
Des records en Grande-Bretagne également, en Angleterre.
Allemagne, tout ça.
Ouais, et l'Allemagne, incroyable. Climat continental, évidemment. Eh ben, c'est pas très joyeux tout ça, hein, je peux vous dire.
Ouais, mais je vais vous faire sourire, Vincent.
Ah oui.
Je n'ai pas résisté à ce jeu de mots relevé dans cet encart du journal de Saône-et-Loire.
Attention.
Avons-nous moins chaud à poil? Alors, je vous vois
sourire,
je vous vois décontenancé, mais je parle de poils dans la Nièvre, à quelques kilomètres d'Autun, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est chez vous, ça, Vincent, je crois. Hein.
La Nièvre, c'est... Non, attendez, vous...
Bourgogne-Franche-Comté,
oui,
en tout cas,
Bourgogne-Franche-Comté, oui, mais je ne me sens pas bourguignon pour autant. Et la Nièvre, c'est vraiment la Bourgogne. Hein.
Non, mais pour les férus du web, le journal de Saône-et-Loire m'a bien fait rire ce matin. Elle vous propose une vidéo-reportage assez drôle sur l'incursion de leur journaliste dans le village de Poils. Allez voir sur leur site internet. Le JSL.com, eh bien, ça, c'est de quoi se poiler de bon matin,
on va dire.
Oui,
c'est bien. Ça me plaît bien, les noms de villages. On devrait faire une petite recherche sur des noms un peu particuliers. Ça fonctionne assez bien. Allez, on revient à une actualité plus sérieuse. Donc, on disait vigilance rouge dans tous les journaux. Mais il y en a un aussi qui est dans le vert ce matin.
Oui, il s'agit de la Dépêche du Midi avec ce titre « Feu vert pour le gratte-ciel », à savoir la tour Occitanie à Toulouse. Le permis de construire du premier gratte-ciel de la Ville Rose a été délivré. Le bâtiment fera 150 mètres de haut. Le journal indique qu'il s'agira d'un des plus hauts de France en province. Et cette tour végétalisée s'élèvera entre la gare Montabio et la médiathèque...
Matabio,
excusez-moi.
C'est pas grave.
Sur le site de l'ancien centre de tri postal de la gare. Il s'agit du premier programme immobilier à s'inscrire dans le projet Toulouse Euro-Sud-Ouest. Il devrait abriter bureaux, logements, hôtels, commerces, restaurants et des locaux SNCF.
Très bien.
Début de la construction prévue d'ici 2023.
Ah bah c'est pas demain la veille quand même, hein, bah ça non. Va mettre un petit peu de temps.
Ah bah oui,
mais on est patient.
En tout cas, la construction a été validée.
Bah
le
c'est
permis
bien.
De construire
quand
a été validé.
C'est pour le bien de tous, on peut attendre un petit peu. Enfin, le Courrier de l'Ouest revient sur la présence de tritium dans la Loire.
Oui, le quotidien s'intéresse au vrai du faux de la présence de cet élément radioactif dans la Loire et dans l'eau potable des 64 communes du département. À savoir que le tritium est un élément radioactif naturellement présent dans l'environnement,
oui.
Que sa radioactivité est estimée à environ 12 ans, mais qu'aucun lien avec une pathologie n'a été établie pour l'instant avec, par les médecins et les scientifiques. C'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest qui a donné l'alerte la semaine dernière, indiquant que plus de 6 millions de Français étaient concernés. Alors, dans le détail, les taux mesurés vont d'environ 4 à 15 becquerels par litre d'eau.
Ouais.
C'est supérieur au taux naturel de présence dans l'eau, qui est de 1 et 3 becquerels par litre. Mais cela ne dépasse pas le critère qualité fixé à 100 becquerels par
D'accord.
litre. Donc, on est loin en delà
Ça va, donc pas de panique.
Du critère de potabilité établi par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pas de panique, oui. Les autorités sont rassurantes. Vous pouvez continuer à boire de l'eau du robinet, mais les autorités doivent en revanche s'inquiéter à l'activité humaine qui provoque ce rejet de tritium dans la Loire.
Bon, du tritium.
Tritium.
Ouais, moi je préfère du tritium. Et dites donc, Marine, je vais vous poser une petite énigme. Vous savez qu'il y a 50 ans environ, tout le monde, ou à peu près, portait du tritium sur soi, et qu'aujourd'hui plus. Vous savez à quelle occasion ?
Dites-moi.
Et ben en fait, c'était le matériel phosphorescent de nos montres.
Ah,
c'était du tritium
oui,
dans les années 60-70. Et ça a été remplacé par un autre matériel qui s'appelle le Superluminova, qui n'est plus radioactif. Voilà, parce qu'on avait tous un peu de radioactivité au poignet.
Mais oui.
Mais ça a bien changé. Hein. Ouais. On surveille maintenant les becquerels. Merci beaucoup, Marine.
Avec plaisir.
Alors, vous savez que moi, j'aime bien l'actu optimiste, l'actu qui nous fait avancer, sourire parfois. Mais là, plutôt nous intéresser. Est-ce que vous avez un chien, Marine ?
J'en ai eu.
Vous avez eu un chien ?
Oui.
Et comment on fait le bonheur d'un chien ?
Oh ben, on le caresse.
On le caresse ?
On est avec lui, on l'emmène.
Qu'est-ce qu'on peut enterrer dans le jardin qui ferait le bonheur d'un chien ?
Oh, des os.
Un nonos. Eh bien, j'ai une actualité nonos absolument fantastique et j'appelle Ronan Alain qui est avec nous au téléphone. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Ronan Alain, vous allez comprendre pourquoi c'est le bonheur des toutous aujourd'hui. Ronan,
sacré nonos.
Il a creusé, et pas dans son jardin, mais du côté d'Angeac-Charente, et il a découvert un sacré nonos, Ronan. Hein.
Et oui, la semaine dernière, on a un petit nonos de 2 mètres qui est apparu.
Donc voilà. Il faut un gros berger allemand pour ça. Hein.
On a un chien qui vient d'arriver sur site. Ouais. Bon, apparemment, c'est un petit peu trop gros pour lui parce que le nonos doit peser à peu près dans les 500 kilos.
Ah oui.
Donc on
Sacré
va avoir.
Vache.
C'est pas de la vache, là, c'est du dinosaure.
Alors vous êtes paléontologue, donc c'est votre profession. Et vous avez comment est-ce que vous avez découvert d'ailleurs cet os à cet endroit-là ? Est-ce qu'il y avait des fouilles déjà ? Est-ce que c'était un terrain connu pour les fouilles et pour l'archéologie ?
Alors en fait, ça fait 10 ans qu'il y a des fouilles paléontologiques qui ont lieu en Jacques-Charente et on fête notre dixième campagne de fouilles.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que cette campagne de fouilles, enfin ce grand projet, il a commencé d'abord justement avec la découverte d'un gros nonos qui faisait déjà 2,20 m.
Ouais.
Et puis voilà, donc cette année on fêtait nos 10 ans et on n'a rien trouvé de mieux que de retrouver un deuxième nonos qui fait 2 mètres.
Ah, c'est génial, donc le 10e anniversaire, c'est formidable.
Voilà.
Et en plus, alors est-ce qu'on peut imaginer que cet os, il est pétrifié ? Parce que si ça pèse 500 kilos, c'est peut-être qu'il s'est calcifié en quelque sorte ?
Exactement, donc là c'est un os fossilisé, on est sur des animaux qui sont vieux de 140 millions d'années. Donc en 140 millions d'années, l'os s'est complètement transformé, on est passé d'un os qui serait assez léger, qui s'est minéralisé au cours du temps.
D'accord.
Et en plus il est dans les argiles, donc l'argile est un petit peu rentrée aussi dans l'os et ça va alourdir considérablement le spécimen.
Ronan Alain, si je me souviens bien de mes cours, et ça date pas d'hier, on est à la charnière du Jurassique et du Crétacé. Début du Crétacé.
Exactement, on est au tout début du Crétacé. On est en Charente. À cette époque-là, l'Europe, c'est un grand archipel.
Ouais, ouais.
Et puis on a une époque justement où la mer se retire, donc il y a des terres émergées qui apparaissent. Et sur ces terres, on a en Europe, entre l'Espagne, l'Angleterre et la France, on a des grands dinosaures et tous les animaux qui sont associés avec eux qui vont évoluer dans ces conditions-là.
Et Crétacé, ça vient de alors je continue hein, parce que j'adore cette période. Ça vient de la craie, en fait. C'est l'époque où sont nées les grandes falaises, par exemple, d'Étretat, etc., à partir de micro-organismes, des coccolithes, hein, qui donnent du calcaire.
Voilà, c'est toutes les grandes falaises qui sont. Alors c'est la, ça c'est plutôt la fin du Crétacé. Pour tout ce qui est la Normandie, tout ce qui est la côte nord. Ouais. Donc on a effectivement ces micro-organismes qui vont se déposer pendant des millions et des millions d'années et qui vont constituer les roches.
Incroyable.
Alors voilà. Et nous à Anjac, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte au contraire. On n'est pas en pleine mer. On est en plein continent.
Ouais.
Donc nous on n'a pas de calcaire. On a des argiles.
C'est un peu marécageux. C'est un peu humide comme milieu.
Voilà, c'est très marécageux, on doit être dans un delta, il y a des plaines d'inondations, donc les animaux vont être piégés, et en fait, ces débordements, ces crues vont permettre aux animaux de se fossiliser très facilement. Et donc, on a tout un écosystème qui est préservé ici, on a plus d'une cinquantaine d'animaux qui sont là, et on a des dizaines de milliers d'ossements qui sont sortis déjà sur le site.
Alors, Ronan Alain, c'est quelle partie, cet os que vous avez trouvé, quelle partie de la bête?
Alors là, c'est un fémur, donc c'est c'est le plus grand os du squelette.
Ouais.
Donc c'est l'os de la cuisse. Alors on s'attendait un petit peu à trouver des os de ce type-là, puisqu'en 2015, on avait déjà fouillé cette zone, et dans cette zone, on avait trouvé un grand sacrum. Donc le sacrum, c'est les vertèbres qui se trouvent au niveau du bassin.
Mm-hmm.
Et comme les spécimens avaient l'air plutôt bien conservés, on avait fouillé à d'autres endroits, mais on s'était laissé la possibilité de revenir en se disant bon, quand on reviendra ici, on aura peut-être des gros os.
Et on ne viendra pas pour rien.
Et voilà, ben on n'est pas revenu pour rien. Là.
Comme on disait chez l'écuriste, vous avez pris les os, quoi.
on a pris les os, exactement. On continue de prendre les os. Et on en a besoin, parce que là, vous imaginez, on a une quarantaine de fouilleurs et il fait 40 degrés à l'ombre.
Oui, je sais.
Donc je peux vous dire que là...
degré par fouilleur.
C'est ça,
voilà,
c'est
c'est dur, là, c'est très très dur.
Et vous savez déjà à quel dinosaure appartient cet os?
Un herbivore, j'imagine.
Alors oui, là, c'est les grands dinosaures. Herbivores, ce qu'on appelle les sauropodes, du type Diplodocus, tout le monde connaît le Diplodocus. Mm-hmm. Donc voilà, donc ça c'est pas un Diplodocus, c'est un autre groupe de dinosaures sauropodes, on appelle ça des thuriasaures. Ils sont surtout à cette époque connus justement en Europe, c'est vraiment une signature européenne, c'est des Européens de 140 millions d'années.
Mm-hmm.
Et depuis 10 ans, ben en fait, on complète chaque année un petit peu ce squelette. Là, on doit connaître à peu près 50 à 60% du squelette de ce grand sauropode.
C'est pas mal.
C'est pas mal, on a des os qui sortent chaque année. C'est pas le plus complet sur site, on a d'autres tout petits dinosaures qui sont des dinosaures autruches, donc mm-hmm. qui ont vraiment la taille d'une autruche.
Mm-hmm.
Et là par contre, on a 47 individus qui sont morts au même endroit, probablement emportés par une crue.
Mm-hmm.
Et là on connaît les squelettes quasiment complets.
Wow. Bon, génial.
Et les
fouilles continuent malgré la chaleur. Il devait faire chaud déjà à cette époque, avec cette ambiance marécageuse.
C'était un climat subtropical. Il faut voir l'Europe un petit peu comme les Caraïbes à l'époque.
C'est ça, donc 30-40 degrés, mais humide pour le coup.
Mais voilà, mais très humide. Mais bon, la mer était pas loin. Les dinosaures pouvaient aller se baigner s'il avait trop chaud, je pense.
Voilà, merci beaucoup Ronan Alain. Oui, ben nous on aimerait bien aller se baigner aujourd'hui, mais ça va être difficile du studio. Merci, on vous souhaite de très belles fouilles et peut-être de trouver encore de nombreux vestiges, de nombreux fossiles de dinosaures. On croise les fémurs pour vous.
J'espère, merci beaucoup.
Allez, bonne journée. Mes amis, on va se retrouver dans une seconde avec notre question d'été. Doit-on installer la clim ou non? Est-ce qu'on doit enfin se rafraîchir par des moyens, je dirais, mécaniques, électriques, ou est-ce qu'on doit trouver d'autres moyens pour un peu préserver la planète? On pose la question aux spécialistes et à nos consciences.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Allez, dans quelques minutes, nous nous promènerons dans la vallée des Rois, la vallée de la Loire. Pour prendre un petit peu de fraîcheur, on en a bien besoin aujourd'hui. L'actualité, ça n'est rempli que de taches rouges sur notre belle France, sur notre métropole. Et on va se poser la question qui est liée à cela. Est-ce qu'on doit se rafraîchir en mettant la clim à la maison? Alors, bien entendu, c'est un cas de conscience. Chaque année, il revient. Je crois qu'il y a des gens qui sont réfractaires, d'autres qui y sont passés depuis longtemps et qui se posent pas trop de questions. Ben, nous, on pose les questions.
Sud Radio, les routes de l'été, vos questions de vacances.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont travaillés par leur conscience au moment... Leur conscience et leur porte-monnaie, hein, parce que ça a un coût, la clim. Hein, l'air conditionné, comme on disait jadis. Eh bien, cette clim, est-ce qu'on doit l'installer? Est-ce qu'on doit faire attention à préserver la planète en le faisant pas? On va faire un petit peu le point sur ce, on va dire, ce confort personnel qui rentre dans nos maisons sous forme de climatisation. Et pour cela, on va commencer par déjà parler des effets de cette canicule qui est l'actu number one. down sur notre corps, parce que la chaleur, ça a du bon, mais pas seulement, surtout quand ça monte un peu trop. Et pour cela, j'ai en ligne un médecin, docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur Hamon.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous ce matin. Alors, docteur, je vais vous poser des questions simples, justement sur les effets de la chaleur sur notre organisme, sur l'organisme des humains, et pas seulement des humains, on va dire des mammifères en général, des animaux à sang chaud, mais nous en particulier. Alors, la première chose, c'est que, est-ce que on est aussi sujet, je dirais, à des pathologies quand il fait chaud que quand il fait froid? Qu'est-ce qui vaut mieux pour le corps? Qu'il fasse trop froid ou qu'il fasse trop chaud?
Bah, qu'il fasse une température normale, ce serait pas mal, parce que quand il fait trop chaud, le corps se fatigue pour maintenir une température à 37, qui est la température normale du corps.
Comment il le fait? En transpirant?
Alors oui, il le fait en transpirant, et donc il faut boire régulièrement. Mm-hmm. et puis éviter de faire des efforts en pleine chaleur. Là encore, je voyais qu'il y avait des joggeurs hier soir alors qu'il faisait 35 degrés à 9h du soir.
Oui, et puis il va y avoir des cyclistes aujourd'hui, docteur.
Qui courent allègrement, oui, mais les cyclistes, ils sont, curieusement, d'abord, un, ils sont entraînés, très entraînés, et deux, vous remarquez qu'ils s'hydratent énormément.
Puis ils sont en montagne. Aujourd'hui.
Oui.
Il fait moins chaud.
Oui, ils sont en altitude. Il va falloir quand même pousser sur les pédales pour grimper les côtes, et donc là... Et là, ils font grimper la température quand même. Des boissons salées, ouais.
Ah oui, ils boivent du sel, on va en parler.
Parce que quand vous transpirez, vous perdez du sel, et quand vous perdez trop de sel, ben, vous avez des crampes, et puis la température du corps s'élève parce que vous ventilez plus, et puis vous ne rafraîchissez, vous ne transpirez plus. Et là, quand vous ne transpirez plus, vous avez mal à la tête, et bien là, à ce moment-là, il faut vraiment se mouiller le corps, boire, et puis arrêter toute activité.
Alors, quand vous dites qu'ils boivent des boissons salées, ça veut dire qu'on peut simplement saler un tout petit peu son eau de consommation?
Non, vous savez, il y a des boissons à bulles qui sont toutes salées, c'est très bien, et ça suffit. Donc, et puis, bon, eux, ils prennent des boissons énergétiques aussi.
Bien sûr.
Mais ce qu'il faut éviter de boire, c'est toutes les boissons à base de caféine, et même les boissons très sucrées qui sont toutes diurétiques. Il faut boire tout simplement de l'eau et se rafraîchir le corps, et surtout éviter d'aller faire un jogging en plein cagnard.
On va voir ça, docteur, tout à l'heure, en deuxième partie de cette question d'été. Aujourd'hui, je voudrais rappeler simplement, si on contextualise un petit peu la présence de l'homme dans l'univers, on va dire grosso modo, la température de notre système solaire, pour parler plus loin, ça va de moins 272 degrés, ça c'est le froid quasi absolu, jusqu'à 15 millions de degrés dans le cœur du soleil. Mais entre les deux, nous, on a une plage qui est extrêmement réduite, qui est la plage, en fait, où l'eau est liquide, parce que c'est l'eau qui est importante dans toute vie, et notamment dans notre corps. C'est le véhicule de tous les aliments du corps, c'est le mode de fonctionnement normal avec de l'eau liquide. Donc ça veut dire que nous, notre zone, elle est entre 0 et 100 degrés, et en fait, notre zone de confort à nous, elle est pratiquement, si on vivait tout nu, entre 10 et 50 degrés. Donc c'est extrêmement réduit.
À 10 degrés tout nu, vous n'êtes pas à l'aise.
Vous n'allez pas tenir longtemps. Allez, je vais monter à 15. Jusqu'à 45.
Mettez 20, c'est pas mal. Et puis même déjà 20, il faut pas qu'il y ait de vent. Vous savez, bon, donc tout ça est quand même relatif.
En tout cas, la plage de confort, elle est extrêmement réduite pour l'humain.
La plage de confort, elle est extrêmement réduite, et puis d'une part, et puis d'autre part, là, je vous entendais parler de climatisation ou pas climatisation.
Et c'est bien ça qu'on va se poser comme question.
Et il faut pas oublier que quand même, la clim, ça bouffe 10% de l'énergie de la planète, quand on veut mettre de la climatisation. Et donc là, on commence quand même enfin à parler, les architectes commencent à parler de maisons qui ne consomment pas d'énergie et justement qui sont thermiquement équilibrées. Donc on pense à mettre des volets à l'extérieur, on pense à orienter les maisons différemment, à pas avoir de trop grandes ouvertures. Là, actuellement, moi, je suis bien au frais dans une maison où les murs font 50 cm d'épaisseur. Avec
et des petites fenêtres. Je suis content pour vous.
Avec des ouvertures et tout va bien. Il n'y a pas besoin, de clé.
On va en parler, on va trouver des solutions. Mmh. D'ailleurs, j'ai avec nous en ligne également Alain Chabrol, qui est le vice-président de France Nature Environnement. Vous êtes content, monsieur Chabrol? Le docteur Jean-Paul Hamon, il fait déjà un peu votre lit, quoi, le lit de ce que vous allez nous dire dans l'émission, j'imagine.
Ah bah oui, carrément. Bonjour Vincent Ferniaud.
Bonjour Alain.
Et puis merci à Sud Radio d'inviter France Nature Environnement. Alors c'est vrai que là, votre sujet, c'est vraiment l'angle mort du débat énergétique.
Eh oui.
On discute souvent, à juste titre, des pointes de consommation d'hiver et très peu de celles d'été. Or, on va battre aujourd'hui le record de consommation d'électricité en France.
Elle a été atteinte hier, d'ailleurs.
On va la rebattre certainement. Oui, parce qu'on oublie, parce que ça fait très longtemps qu'on a tous des réfrigérateurs et des congélateurs qui pompaient déjà un peu plus fort en été. Mais là, la clim, c'est une catastrophe écologique, non?
Oui, c'est dans le monde plus d'un milliard de tonnes de dioxyde de carbone, de CO2. En 2050, 2 milliards. À l'heure actuelle, imaginez qu'il y a moins dans le monde d'un tiers des habitants qui sont équipés de climatisation, mais en 2050, on passera de 1,6 milliard d'habitants équipés à 5,6 milliards.
Ça, c'est les projections,
en fait, on estime que par le monde, hormis la nourriture et quelques achats de base, c'est le premier produit d'achat.
Ah bon ?
Le premier produit d'achat.
Vous voulez dire le froid dans son entièreté, quoi. C'est-à-dire tout ce qui touche au froid, la façon de réfrigérer.
Là, tout à fait. Et donc, en plus, c'est en effet boule de neige, puisque, au moins dans l'hémisphère nord, la climatisation, en fait, rejette de l'air chaud.
Et oui, on va le voir.
Et on estime que, dans des villes comme Paris, ça peut accroître, rien que par cet équipement, de plus d'un degré, la température moyenne des villes.
Bon, donc, allez.
C'est vraiment le fait boule de neige.
On va se quitter une minute, on se range un peu sur le bord de la route et on va revenir à ce débat pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, à la fois dans notre question de conscience, et là on commence à toucher du doigt vraiment le problème, et ensuite peut-être trouver des solutions faciles, simples, peut-être des remèdes de bonne mère, la bonne mère va peut-être nous donner des conseils effectivement pour se rafraîchir en été sans être obligé de brancher la clim.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
10h midi et la température monte en studio et surtout dehors. Bon, toute l'actualité est pleine de cette canicule, de cette sécheresse, des conditions climatiques qui nous font vivre des heures un peu difficiles. Et surtout aux plus vulnérables, aux plus fragiles d'entre nous, les enfants en bas âge, les personnes âgées et les gens qui vivent dans la rue, évidemment, qui n'ont pas toujours de quoi se protéger. Et nous, face à cela, eh bien, on se pose une question chaque année quand la température monte. Est-ce que j'installe la clim? Alors, en dehors du coût que cela représente, c'est surtout un coût pour la planète, c'est ce qu'on était en train de dire avec Alain Chabrol, le vice-président de France Nature Environnement. Le coût est exorbitant, on peut le rappeler, Alain.
Oui, effectivement.
La signature carbone, facture carbone.
Alors, d'une part, c'est 10 à 15% de toute la demande totale d'électricité, souvent produite
avec du charbon, dans le monde.
Des
énergies fossiles. Ouais.
Donc, c'est quand même une catastrophe pour la planète. Et c'est sûr, quand on parle de solutions, la première solution, c'est la lutte d'abord contre le changement climatique. Donc ça, c'est une action, avant de parler des solutions individuelles, d'abord une action collective.
Évidemment.
C'est soutenir les actions des grandes associations comme France Nature Environnement. C'est donc aussi, par les marches pour le climat, on peut y aller tranquillement en famille, évidemment pas quand il fait aussi chaud.
Non, c'est donc, peut-être pas le jour, Alain. D'exhorter les foules à aller marcher dans la rue, sous le canard.
C'est passer de la communication à des actions concrètes avec des moyens vraiment dédiés, parce que vous le savez, on n'est pas du tout en France sur la bonne trajectoire climatique, donc il y a vraiment urgence à agir. Et puis, bien sûr, il y a les solutions individuelles. Alors, On parle peu souvent, mais je profite de l'occasion pour le dire, la climatisation des voitures.
Est-ce que je peux justement vous dire que, en ce qui me concerne, je vais vous dire la vérité, autant j'ai un problème à mettre la clim chez moi, pourtant c'est pas une question de moyens, parce que je pense que mes revenus me le permettent, donc c'est souvent un frein également, mais là, ma conscience écologique en prend un gros coup. En revanche, je ne peux pas abandonner la climatisation dans un véhicule fermé. Là, c'est ma limite.
Il faut quand même rappeler les impacts. Hein. Ça augmente de 10% l'impact global pollution des véhicules.
Oui.
C'est quand même plus 100 litres de carburant par 100 km.
Mm-hmm.
Et c'est 5% du coût annuel quand même d'un véhicule.
Oui, mais c'est rien comparé à la climatisation des immeubles. D'habitation, je suppose.
Ouais. Alors, sans s'en priver pour les véhicules, on peut différer... ou prendre d'autres solutions de mobilité aux heures les plus chaudes, quoi.
Emporter des pains de glace sur le siège arrière? Non, mais vous savez, il y a des solutions comme ça qu'utilisent les gens qui alors là aussi ça a un coût, hein, lorsqu'on congélateur, on fait tourner un congélateur en été, on veut aller jusque là. C'est très difficile. Ce que vous mettez en avant, Alain Chabrol, c'est que c'est très difficile de revenir en arrière sur un confort qui semble comme acquis aujourd'hui, qui est de vivre dans une plage de température acceptable dans son domicile ou dans son véhicule.
Oui, mais on peut faire beaucoup mieux, hein.
Alors,
d'autant plus que c'est un vrai quand même problème d'inégalité territoriale, sociale, environnementale.
Mmh.
Hein, les gens qui sont dans des barres d'immeubles, ils sont quand même plus enclins à acheter un climatisateur qu'un habitant dans une maison particulière,
individuelle, vous voulez dire,
ou avec déjà une maison bien isolée type BBC. Donc il faut avoir cette notion d'impact social et environnemental, et tout le monde n'est pas égal
devant la clim.
Et quelles seraient justement les solutions à mettre en place chez soi, alternatives, enfin...
Alors déjà, sur l'équipement d'un climatisateur proprement dit. Bon, il y a diverses solutions techniques, mais là, il est très très important, évidemment, c'est un peu plus cher, mais d'acheter les équipements A3+, c'est-à-dire les équipements qui sont les moins énergivores.
C'est ça.
Il y a quantité d'équipements sur le marché, notamment vis-à-vis des achats d'urgence, comme en ce moment, de gens qui effectivement ont peu de moyens, et en fait ils achètent les équipements qui consomment
par exemple,
plus d'électricité.
Par exemple, ce qu'on appelle les blocs mobiles, les blocs rafraîchissants,
c'est le plus simple
en général.
Hein, mais il existe une grande palette d'équipements avec des techniques diverses et qui sont peu énergivores. D'ailleurs, l'ADEME, qui s'occupe de ces organismes, s'occupe de ces sujets, a lancé tout un tas de concours pour abaisser la consommation, trouver d'autres solutions innovantes. On va dire, c'est les climatisateurs de demain.
Oui.
Les solutions existent et permettraient déjà d'économiser 20 à 30% de la consommation électrique de ces équipements.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, comme on a maintenant des équipements électriques luminescents dans nos jardins, etc., d'avoir des climatiseurs avec des batteries solaires, par exemple ?
Alors, la climatisation solaire existe.
Mmh.
Elle est au point. En fait, ça fonctionne par un système d'évaporation. Elle est accessible et se trouve pour ceux qui veulent s'en équiper. Et puis, le docteur Hamon citait à juste titre, je dirais, tout l'effort qu'on doit faire pour
s'orienter
vers une architecture bioclimatique.
Oui, mais même avant d'aller jusqu'à l'architecture et aux solutions, on va dire, immobilières, est-ce qu'il y a déjà des comportements à avoir sur soi-même, docteur Hamon? Des comportements simples.
En quoi? En matière de...
Pour se rafraîchir, sans avoir recours à la climatisation.
Pour se rafraîchir, oui, il y a des systèmes très simples. Vous savez, quand vous arrosez vos plantes avec un petit vaporisateur que vous alimentez avec de l'eau fraîche, c'est très simple. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller acheter des flacons de vaporisateur.
Mmh, mmh.
Et c'est très 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 bien. Vous vaporisez, vous... Et ça rafraîchit le corps, ça vous permet justement d'avoir
Et pour la nuit, par exemple, quand on est dans un espace confiné où on nous dit bah, tiens, fermez les volets, etc. Mais du coup, il y a pas d'air, il y a cette espèce de sauna du coup intérieur.
Surtout
comment
si
on peut
pas
faire
que les moustiques rentrent.
C'est-à-dire que si vous avez des volets extérieurs, et que vous vous protégez des volets qui soient vraiment efficaces, qui des volets en bois qui repoussent la chaleur,
oui.
que vous fermez les fenêtres, que vous aérez vos appartements la nuit. Mais tout ça, ça suppose d'avoir des volets en bois. Vous savez, récemment, oui. Ça m'est arrivé d'aller dans une maison de retraite à la première épisode de canicule qu'a connu la région parisienne.
Oui, oui.
Il était 9h30 du matin et il y avait une panne de secteur. Alors j'ai découvert, il faisait déjà très très chaud dans la maison, que donc il n'y avait pas de groupe électrogène dans cette
de
maison
secours,
de retraite.
Oui.
Et quand j'entends le gouvernement dire qu'on a tiré les leçons de la canicule de 2003, là je peux vous dire que
pas pour tout le monde.
Ils l'ont pas tiré. Et d'une part, et d'autre part, les chambres étaient très chaudes parce que c'est pourtant une maison de retraite récente qui date de moins de 5 ans. Il n'y avait aucun volet extérieur aux fenêtres exposées à l'est et exposées au sud-est. Et là, je peux vous dire qu'il faisait très 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 chaud. Donc, il y a des mesures, effectivement. Donc, si vous fermez ces volets, que vous fermez les fenêtres pendant la période de chaleur et que vous les ouvrez le soir... Mais le soir, tard, malheureusement, parce que la température la plus basse, elle se retrouve autour de 1h, 2h du matin, et que dès que vous vous levez le matin, vous refermez les fenêtres, etc.
Bien sûr.
Vous rafraîchissez l'appartement. C'est des mesures simples.
C'est la manip de bon sens. Docteur, on entend de plus en plus dire que, par exemple, on ne doit pas prendre des douches froides, mais plutôt des douches chaudes. Est-ce que c'est vrai?
Des douches chaudes, non. Il faut pas aller jusque là. Faut se rafraîchir avec des douches qui soient fraîches. Et puis parce que effectivement, quand vous me prenez des douches glacées complètement froides, vous obligez le corps à fournir un effort pour
maintenir
à la température.
Il rechauffe
de
37. Derrière, quoi.
Vous savez, la température idéale, c'est 37 degrés pour le corps. Donc, si vous faites grimper la température à 40, ben vous risquez des malaises, voire des comas. Et si vous la faites trop baisser, ben le corps dépense de l'énergie pour justement faire monter la température à 37. Donc, il faut prendre des douches. Il faut se mouiller le corps, se couvrir d'un linge léger pour maintenir un taux d'humidité sur le corps quand vous êtes éviter les efforts en plein chaleur.
Pourquoi les hommes du désert sont-ils toujours couverts, complètement couverts, pour se faire de l'ombre, en fait?
Non, c'est-à-dire qu'ils gardent leur température.
C'est ça.
Je peux vous dire que je sais pas si j'irai coucher avec un Touareg à côté, parce que c'est vrai que les types, ils ont plusieurs épaisseurs. Ils transpirent, mais ils ne perdent pas l'eau. L'eau ne s'évapore pas.
Oui, c'est ça.
C'est
comme
couches,
si on se mettait une combinaison de plongée étanche pour sortir par 40 degrés.
Non, la combinaison de plongée étanche, elle respire pas.
Ah, oui, d'accord. Il faut que ça respire.
Par contre, non, surtout pas du néoprène. Je peux vous dire que mettez un plongeur en plein cagnard, vous allez voir, il va pas tenir longtemps. Il va tenir sûrement moins qu'un Touareg sur un chameau.
D'accord. Docteur Hamon, est-ce qu'il y a une température au-delà de laquelle on est obligé de prendre vraiment des mesures? Parce que à partir d'une certaine température, on le sait par exemple, on dit qu'on peut pas vivre au-delà d'une température corporelle de 40 degrés, grosso modo. Enfin, 42.
À 42, vous êtes dans le coma.
Voilà.
Donc, on n'est pas sûr de vous tirer d'affaire.
Il faut quand même se rafraîchir si on atteint des températures de 40 degrés, c'est dramatique. Enfin, 42
pourquoi,
degrés à l'extérieur.
Pourquoi on dit qu'il faut que les personnes âgées soient protégées, évitent les efforts, se rafraîchissent? Parce qu'elles transpirent moins que les autres.
Voilà.
Elles transpirent moins que les autres.
Donc, il n'y a pas de régulation.
La régulation, c'est moins bien.
D'accord.
Et donc, il faut boire et surtout se mouiller le corps, se rafraîchir le corps pour éviter que la température ne grimpe. Ça c'est très important. Et si vous avez une crampe, si vous avez des crampes, ou si, par exemple, quand vous buvez un verre d'eau et que vous vous mettez à transpirer abondamment après avoir bu un verre d'eau, ça c'est un signe de déshydratation.
Vous manquez de chaleur. Vous manquez d'électrolytes, comme votre batterie, quoi. En fait,
Alors, quand vous avez des crampes, vous manquez d'électrolytes. Ça, c'est clair. C'est ça. Et ça, c'est le signe qu'il faut arrêter tout effort, boire, et boire, boire un peu salé, des jus de fruits, mais enfin, oui, des jus de fruits et des soupes un peu salées, etc.
Oui, oui.
Mais c'est pour ça que le gazpacho, il est andalou, hein.
ils ont trouvé un truc, là.
Oui, ils ont trouvé. Il faut écouter un peu quelles sont les habitudes.
Eh oui,
des pays
bien
chauds,
sûr. Historiquement, oui.
Voilà. Ouais.
Et cela dit, si on écoute les habitudes des pays chauds, on boit chaud. Hein. Le thé à la menthe, quand même, dans les pays chauds, c'est brûlant. Hein.
Oui, mais enfin, ils n'en boivent pas des tonnes.
Hein. Non plus.
Boivent pas des tonnes et c'est très peu sucré.
Voilà. Hein. Enfin, oui, c'est très peu sucré, mais il y a quand même suffisamment de sucre à l'intérieur pour apparemment désaltéré. Alain Chabrol, on a compris.
Quelques autres solutions.
Oui, dites-moi avant de se quitter.
Ben oui, on peut filtrer les fenêtres hein, des rayons du soleil avec des films solaires adhésifs, par exemple, l'anti-chaleur.
Ouais.
Voilà.
C'est les infrarouges hein, qu'on essaye de traquer là, hein, ceux qui chauffent.
On a toujours des équipements qui continuent à tourner chez nous, des ampoules calorifiques. Il faut éteindre tout ça. Et puis vraiment une recette pour vous, Vincent Fergnaud, cuisine et froid.
Ah,
il faut manger frais.
Ça c'est une bonne chose.
De pas se mettre des plats chauds dans le ventre quand il fait trop chaud.
Et puis on en a pas parlé aussi. Voilà, mettre des plantes chez soi parce que la transpiration foliaire. Ma foi, contribue à rafraîchir une pièce.
Et puis remet de l'oxygène en plus, alors, c'est bien.
Oui, puis, une technique plutôt de grand-mère, mais bon, il faut bien sourire aussi, mais c'est efficace. S'il y a une place dans le réfrigérateur, eh bien, on peut mettre ses draps, et on les met le soir, on dort dans des draps frais.
Ou ses t-shirts pour le lendemain matin, les chemises.
Exactement. Ouais. Et puis aussi, on peut facilement mettre en grand linge mouillé devant les ouvertures hein, des fenêtres. C'est efficace aussi.
C'est
solutions de bon sens. Mais la plupart des gens, on s'aperçoit quand on discute autour de nous, n'y pensent pas. Et donc subissent plutôt d'adopter chez soi. Alors c'est une palette de solutions, mais bon, ça permet quand même de limiter un peu l'impact
merci.
De la chaleur.
Merci beaucoup Alain Chabrol, vice-président de France Nature Environnement, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Vous nous avez donné des conseils de bon sens hein, pour éviter de faire du mal à notre planète qui en a bien besoin. À nous-mêmes, oui, mais là, il faut passer un peu derrière l'intérêt collectif.
Hein,
parce que l'intérêt personnel, il ne prime pas dans cette manière. Sinon, si on n'avait aucune conscience, tout le monde serait à la clim et la mettrait à fond en permanence, mais quand même, ça nous chatouille bien qu'on soit... Voilà, très très jaloux de notre confort personnel, et bien là, il faut se rendre à l'évidence qu'on fait trop de mal à notre planète et pour les générations futures. Nos enfants nous reprocheront d'avoir mis la clim trop fort. On y pense à chaque fois qu'on dit est-ce que je la branche. Allez, juste un ventilateur, ça fera l'affaire aujourd'hui, même s'il va faire très chaud et peut-être un peu moins dans la vallée de la Loire. On va le voir tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Fergnaud.
Les routes de l'été qui vont nous mener du côté de la vallée des rois. Et on ne pense pas à l'Égypte ce matin, mais bien à notre vallée de la Loire. Cette vallée qui sent bon, d'abord, l'esprit ligérien, un peu la douce France, hein, qu'on aime bien parce que la Loire, elle coule tranquillement. Dernier fleuve sauvage d'Europe. Hein. Elle n'a jamais été contrainte. Elle est restée libre, cette Loire. Et elle coule indolente, entre sa source et son embouchure du côté de Saint-Nazaire, là-bas, après Nantes. Eh bien, cette Loire, on va la visiter sur une partie qui va aller, on va dire, de Chambord à Saumur. Hein, on va être entre Blaisois, Touraine, Anjou. On fait un petit passage en toute rapidité. Mais d'abord, on s'occupe de ce que Marine Van Tournout a dans la tête. Et quand je dis dans la tête, c'est dans le sac.
Sud Radio, les routes de l'été, mon sac de plage.
Alors Marine, ce sac de plage bien rempli aujourd'hui ?
Toujours. Mon sac de plage et moi, ce matin, on va se poser dans un port.
Ah,
bah on va se rafraîchir. Bah oui.
De quel côté ?
On va du côté de Port Camargue, au Gros-du-Roi.
Ah, super.
Bah oui, et les zones techniques en fait du port ont décidé de casser les codes cet été et pour se transformer en décor de festival, un festival décalé et insolite qui s'appelle le Festin Zone.
Oui. Et de quoi s'agit-il, Marine ?
Bah, c'est un tout jeune festival qui fête sa 3e édition avec au programme musique, danse, street art, DJ, ateliers interactifs environnementaux, un espace pour les enfants.
Comment ateliers interactifs environnementaux.
Environnementaux.
Ça veut dire qu'on va apprendre à se comporter un petit peu mieux avec la planète alors ?
Oui, tout à fait. Des choses qui, je sais, vous plaisent énormément, mais ils pensent aussi aux enfants, et surtout la scène, elle est originale, hein. Vous êtes entouré en fait de bateaux, vous êtes dans le port de plaisance, et la grue de manutention, par exemple, devient un support d'éclairage.
C'est-à-dire on réhabille le port du Gros-du-Roi.
Tout à fait, et c'est aussi l'occasion de découvrir et redécouvrir des jeunes talents. Et ce qui est génial, c'est que tout est gratuit et en accès libre. Prêt à voguer, en tout cas. Vers Gros-du-Roi.
Eh bien, si on appelait Frédéric Alcasser.
Ah ben avec plaisir.
Alors, on appelle Frédéric Alcasser. Allô, Frédéric ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Frédéric. Vous êtes organisateur du festival Festin Zone, donc vous avez tout voix au chapitre pour nous raconter un peu ce qui se prépare. D'abord, les dates du festival.
Mais les dates, c'est du 26 au 27 juillet.
D'accord, c'est ce week-end, quoi. Hein,
c'est ça, on commence demain.
Demain, vous êtes dans le sprint final, alors ?
Oui, c'est ça, dernière ligne droite, les installations ont commencé, les artistes vont arriver demain matin, et c'est parti.
Et il faut dire que le Gros-du-Roi, c'est à la fois un port de plaisance, mais aussi un port de pêche, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein.
Oui, tout à fait, en fait, Port Camargue, c'est le port de plaisance le plus grand d'Europe, il compte 5000 bateaux, mais c'est vrai que l'ADN quand même du Gros-du-Roi, c'est son port de pêche, puisqu'on a
un
port de pêche en centre-ville, avec les plages qui se situent aussi en centre-ville.
Et d'ailleurs, j'invite ceux qui passent par le Gros-du-Roi à voir la sortie et la rentrée des bateaux, hein, deux fois par jour. C'est un spectacle absolument extraordinaire, voir les chalutiers rentrer au port. Et après, d'aller voir ce qu'ils rapportent, hein, évidemment.
Exactement, et de le manger.
Oui, d'abord bien les cuisiner, les poissons et tous les merveilleux fruits de mer qui peuvent être apportés. Alors, Frédéric Alcasser, on l'a vu, c'est un festival en fait qui prend possession du port, quoi. C'est ça peut-être la particularité de Festin Zone.
Exactement, c'est le côté insolite de ce festival, c'est d'avoir mis des artistes, une scène au milieu d'une zone technique de bateau. Donc il faut imaginer ça au bord de Marina, hein. On est vraiment les pieds dans l'eau, mais avec des bateaux qui se trouvent à terre.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, vraiment on est entouré, on a voulu garder le décor naturel de la zone.
Bah oui.
Pour y faire un festival.
Ça fait partie de l'esprit du lieu et il y a toujours un esprit très festif, hein, autour du Gros-du-Roi. D'ailleurs la Camargue c'est une terre de fête quand même, hein. Il faut bien le rappeler, quoi. Il y a, surtout pendant l'été où ça bouge énormément, ça bouge, ça chante, ça danse et voilà.
C'est ça. Il y a beaucoup de. Ben là, on est au pic entre le 14 juillet et le 15 août. C'est le pic de la saison pour nous. Mmh. Donc voilà, c'est l'occasion d'offrir un spectacle et de faire découvrir aussi un coin qui n'est pas du tout connu par nos amis estivants. Donc c'est un bon compromis entre tradition insolite et.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez citer pour la tradition et qu'est-ce que vous pourriez citer pour l'insolite, pour faire vraiment, pour mettre des cas concrets en face de ces concepts.
Oui, alors donc c'est vrai que tradition, on va pas parler de taureau, on va pas parler de Camargue.
Non.
C'est vrai que c'est le festival, il y a pas de ce genre de tradition. Mais quand je dis tradition, c'est la tradition nautique, puisque c'est partie de l'ADN de la ville. Donc on va se retrouver avec des outils qui permettent aux professionnels du nautisme de travailler. Donc on met en scène les outils traditionnels de navigation, etc. Et de l'autre côté, on y plonge un programme d'activité, un programme en direction des enfants et un programme musical.
Et au niveau de la programmation musicale, justement, quels sont les artistes que vous voudriez mettre en avant ?
Alors, déjà demain soir, on va commencer avec la tête d'affiche qui s'appelle Lire le Temps.
Oui.
Lire le Temps, c'est un groupe de Strasbourg qui joue un électro-swing. Il y a quelques années de ça, il y a eu une mode sur le swing. Donc, c'est des vieux morceaux qui sont remixés.
Ah, chouette.
Sauf que c'est pas du simple remix, quoi. C'est pas du DJ, c'est joué en live. Mm-hmm. Et donc, c'est assez.
Mais c'est super dansant, du coup, alors.
Oui, c'est ça.
Ça va bouger.
Chanter. C'est ça. Il y a du groove dans l'air.
Et vous avez aussi les Hernadettes, je crois.
Voilà, donc les Hernazettes, ça sera la tête d'affiche du samedi. Donc là, c'est une espèce de comédie musicale. Alors, ils se sont fait connaître il y a à peu près 3 ans de ça, avec l'air guitare. Le air guitare, c'était une espèce de mode où on faisait semblant de jouer.
On fait semblant de jouer de la guitare en grattant son ventre, si on peut dire. Je schématise un peu.
Exactement. Sauf que eux, ils ont poussé ce playback, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Ils ont poussé ce playback à l'extrême avec le mix entre la vidéo et le jeu sur scène.
Et du coup, tout le monde gratte son ventre en même temps que le groupe sur scène. Ça permet que tout le monde joue de la guitare. Tout le monde joue de l'air guitare, voilà. Faut pas être trop doué. Génial, Frédéric. Écoutez, vous savez quoi ? On va envoyer tous nos amis au Gros du Roi ce week-end, parce que moi ça me plaît bien cette idée en plus nautique, ce festival nautique qui fait la part belle aux ports et aux pêcheurs. Je trouve que c'est bien dans l'esprit du lieu. Et on vous souhaite un week-end bien rempli et bien festif, que ça s'amuse.
Et bien au frais.
Ouais, un petit peu de fraîcheur fera pas de mal, mais il y a la fraîcheur évidemment de la mer. Parce que l'eau elle est toujours plus fraîche que l'atmosphère. Allez, bon week-end à vous. On va faire comme chaque jour. Place à YouTube, à Instagram, à comment que ça s'appelle, Twitter. Enfin, et tout ça, les réseaux sociaux.
Sud Radio, les routes de l'été. Les blogueurs à l'honneur.
Ah, nous, c'est très important, les blogueurs, chez nous, parce que ce sont ceux qui connaissent bien leur région et qui savent la promouvoir. Et ben aujourd'hui, c'est madame Freddy Jamard. Bonjour, Freddy.
Bonjour.
Moi aussi, ma femme s'appelle Frédéric. Alors, le blog de Fred, quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, je vais écouter, ça m'intéresse. » Blog de Fred 37. Alors, c'est pourquoi ça. Pourquoi 37? Dites-le nous.
Eh bien, parce que j'habite en Touraine.
Et voilà, cette magnifique Indre-et-Loire, d'ailleurs, qui va nous occuper un petit peu ce matin, puisqu'on va descendre la Loire. Et la Touraine, c'est quand même une région bénie des dieux. C'est vraiment le cœur de France, cette vallée de la Loire. Parfois, on dit, les seuls qui parlent sans accent en France, ce sont les Tourangeaux et les Angevins.
C'est vrai.
Hein ? C'est comme si c'était le français sans accent, quoi. C'est-à-dire vraiment le cœur du pays, quoi.
Voilà.
Alors vous êtes où ? Vous habitez où, vous, en Touraine ?
À Tours même.
À Tours, voilà. On ne peut pas faire plus central. Et vous, vous aimez mettre en avant toutes les beautés, mais aussi l'histoire de votre département et de votre coin de France.
Oui, tout à fait. Je suis passionnée d'histoire et je vais me faire partager tout ce que j'apprends, je vois, je visite sur mon blog. Voilà.
Et sur votre blog, vous faites la part belle, évidemment, à la Renaissance, parce qu'elle est partout présente dans cette Touraine, la Renaissance.
Surtout qu'elle est un honneur, puisque c'est le 50e anniversaire. Donc, la ville de Tours a organisé plein de festivités et de spectacles en lien avec la Renaissance.
Et oui, puis c'est aussi le 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, du côté d'Amboise. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane Zeremeta, notre petit futé. Et vous, donc, vous vous baladez et vous allez identifier les plus beaux sites, des histoires particulières, vous intéressez aux gens aussi.
Voilà, oui, tout à fait. J'ai la légende de Saint-Patrice qui est à 10 km de Langeais.
Oui.
C'est Saint-Patrice, c'est en réalité Saint-Patrick. Tout le monde fête la Saint-Patrick irlandaise.
Eh oui.
Voilà.
C'était un moine qui avait évangélisé, non, Saint-Patrick ?
C'est ça, c'est un moine, enfin au départ c'était un jeune homme d'une très bonne famille de Bourgogne et qui a été enlevé par les Irlandais et qui a été mis en esclavage pendant 6 ans.
Ah oui, j'allais dire, retenu dans un pub irlandais, enfin c'était un peu moins drôle à l'époque. Et les légendes les légendes et les histoires actuelles, on peut les retrouver sur votre blog. Vous donnez l'adresse ? C'est le blog de Fred ?
C'est le blog de Fred 37. Overblog.com.
Voilà, fred37.over-blog.com. C'est ça votre petit coin à vous, où on peut retrouver de belles images et de bonnes histoires sur la Touraine, si on est dans le coin. Merci Fred. Je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud en Touraine, mais je crois que c'est mal parti quand même. Et il va falloir rester les volets fermés à l'intérieur avec un bon ventilo et une bouteille d'eau. Vous faites ça pour moi ?
Tout à fait.
Ok, génial. On va se retrouver dans quelques minutes pour descendre la Loire ou la remonter, c'est selon. De toute façon, elle coule assez tranquillement, surtout avec le manque d'eau en ce moment, donc vous n'aurez aucun mal à la remonter, même avec une seule rame. Allez, on rame pas trop, nous, on revient tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Les routes de l'été iraient peut-être jusqu'à New York. À ce moment-là, demandez le chemin à téléphone.
Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie, pas en toi. Tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour
j'irai là-bas, peut-être avec toi à New York, mais aujourd'hui plutôt du côté de l'arrière-pays niçois.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, les routes de l'été. Un trésor du terroir.
Un trésor du terroir, des trésors du terroir dans les jardins de Mireille Auda. Bonjour Mireille.
Et bonjour à tout le monde.
Mireille, vous êtes maraîchère du côté de Gatières, c'est pas loin de Carros, hein, c'est-à-dire vraiment sur les premiers contreforts dès qu'on recule dans l'arrière-pays. Hein.
C'est ça, tout à fait. Arrière-pays niçois.
Arrière-pays
tout
niçois.
Proche, mais à 12 km de la mer.
C'est
donc
ça.
On reste quand même proche du sud.
Au-dessus de la vallée du Var, quoi. Hein,
c'est
voilà.
Ça.
En bordure. C'est la route de la Vésubie, en fait. Hein, presque, si on veut remonter plus loin, pour vous situer un peu l'endroit. Alors, vous, votre spécialité, évidemment, ce sont tous les produits, les merveilleux produits qu'on trouve dans ce coin-là, c'est-à-dire des petits légumes, des herbes fraîches, et puis alors les fameux pousses de salade, les fameuses pousses de salade, parce que le mesclun, ça c'est vraiment niçois, c'est vraiment de cette région. Allô, allô ? Oh, il y a Mireille qui nous a quittés. Alors, Mireille, vous êtes de retour, ça y est, je vous entends.
Oui,
je disais, le mesclun, c'est important dans la région, ce mélange.
Alors, c'est même l'origine de ce mélange. Aujourd'hui, tout le monde connaît le mesclun, tout le monde sait que c'est ce mélange très doux de toutes petites feuilles,
ouais.
Mais il est né à Nice.
Oui. Mesclumo, ça veut dire mélange, enfin mêlé,
c'est
ou... ouais,
c'est ça. C'est mélangé, tout à fait.
D'accord. Et alors, ce mélange, vous faites pousser des pousses, c'est-à-dire des très jeunes feuilles de salade. Qu'est-ce que vous
c'est
avez
ça.
Comme, qu'est-ce que vous mettez dans votre mesclun, vous?
Alors, le mesclun est quand même régi, il y a eu des arrêtés hein, pour essayer de le défendre, parce
qu'on
entend justement, certains ont pris leurs aises avec la notion de mélange, mais pour qu'il y ait vraiment l'appellation mesclun niçois.
Oui, il ne faut pas mettre des endives, par exemple.
Exactement. Alors, il ne peut pas y avoir de salade adulte découpée. C'est nécessairement que de la jeune pousse.
Ouais.
Il faut qu'il y ait 7 variétés au minimum.
Alors, je vous écoute. Vous savez, les plus utilisées.
Dont le cerfeuil et la roquette obligatoires.
Ah ouais, le cerfeuil.
D'accord.
Ah d'accord.
Voilà,
donc une herbe, pas une salade en l'occurrence.
Tout à fait, voilà.
Mm-hmm.
Donc le cerfeuil, la roquette. Après, tout se décliner en fonction de ce que, au départ, c'est les moines du monastère de Signé et ils cueillaient les salades qui poussaient dans leur jardin.
Ouais,
donc
c'est ça.
Ça pouvait être des petites laitues, de la batavia, ça peut être du pourpier, ça peut être de la pousse d'épinards.
D'accord.
Vous pouvez, toutes sortes après de petites feuilles de salade qui font à peu près 6 cm.
Ah, mais j'adore, on parle presque de pêche à la salade, quoi. Il y a des longueurs autorisées minimum pour les, ou maximum plutôt d'ailleurs, là, en l'occurrence.
Si on veut garder la douceur, il faut avoir des feuilles toutes jeunes.
Ouais.
Et voilà,
la douceur, mais enfin quand on parle de roquette, il y a quand même un peu de piquant, un peu de force. Hein, voilà. C'est le mélange de tout ça d'ailleurs qui va faire ce mélange de goût inégalable. Et puis alors, excusez-moi, on parlait salade, la salade niçoise quand même. Hein, qu'est-ce qu'on va mettre dans la salade niçoise comme salade ?
Donc, dans la salade niçoise, on ne met pas de salade.
Et voilà.
La salade niçoise, c'est la base, c'est quand même la tomate.
Voilà, tomate et puis du poivron. Des fèvettes, normalement. Hein.
Normalement, fèvettes et cébettes.
Ouais, c'est ça. Oh, la cébette,
c'est
bon.
Ce qui veut dire que logiquement, on peut pas la faire non plus tout le temps. C'est pour ça qu'après, il y a toutes sortes de variantes, avec évidemment quelques anchois.
Oui, mais ça, vous n'avez pas dans le jardin. Enfin, ça se saurait.
Non.
Mireille Auda, il y a quelque chose que j'adore dans cette région, c'est évidemment la diversité, la profusion d'herbes, les herbes fraîches. Les herbes fraîches ou des herbes de garrigue, et vous avez les deux dans votre jardin.
Exactement. Alors, l'herbe de garrigue, nécessairement, on a le thym, le romarin, la marjolaine, l'origan, la sarriette, toutes ces
merveilleux.
Herbes.
Et ça parfume le matin dès que le soleil monte, hein, ça fait monter les huiles essentielles dans l'air.
Et c'est les herbes qui vont avec tout, puisque vous pouvez aussi bien les mettre dans des desserts qu'avec de la viande, qu'avec du poisson, qu'avec des entrées. Mmh. Et après, il y a l'incontournable basilic.
Ah là 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 là. Et ça, la saison, c'est quoi exactement la saison du basilic ? Ça va de juin à septembre ?
C'est ça. Si vous voulez le mettre dans votre jardin, on va, selon le climat, on va se dire, allez, on peut tirer de mai à octobre.
Oui. Et vous, c'est un basilic à grandes feuilles ou à petites feuilles ? Vous avez peut-être plusieurs variétés d'ailleurs.
Non, on a une variété, c'est la variété Auda, en fait.
Obtention de la maraîchère elle-même.
C'est-à-dire que depuis plusieurs générations, on sélectionne nos herbes aromatiques pour leur parfum.
Eh oui.
Et donc, même si quelquefois, c'est des variétés qui demandent plus de technique culturelle, parce qu'elles sont un peu plus fragiles, mais avant tout, nous, ce qu'on recherche, c'est le goût.
Eh oui.
Donc, on est à l'origine, c'est un basilic génovaise, donc plutôt à grosses feuilles.
Ah, génovaise, génois donc. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est de l'autre côté de cet arc ligure, on va dire.
Exactement, c'est vraiment le pays du pistou, hein, le pesto. Hein, donc, c'est cette Ligurie qui est quand même qui a toujours été un gros pays de basilic.
Oui, puis c'est rattaché à la région. Hein, c'est la French Riviera et puis la Italienne Riviera. Donc ça se touche.
Exactement.
Bien entendu, il y a Vintimille entre les deux. Merci Mireille. Et des fleurs comestibles aussi, il faut le signaler, hein, parce que c'est un peu la mode. Rapidement, dites-moi deux, trois espèces de fleurs que vous mettez dans nos assiettes. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors, il y a la bourrache.
Ah oui, petite fleur bleue, là.
Les petites fleurs bleues qui ont un parfum très iodé.
Oui, un peu d'huître, on dit, hein, parfois.
Ah
mais
oui,
enfin,
tout
en tout
à
cas,
fait.
Franchement,
même.
Vous faites de la capucine aussi ?
Bien sûr.
Oh, j'adore, c'est poivré, ça.
Alors là, c'est très piquant, riz noir limite wasabi.
Ouais.
Et on utilise aussi bien la fleur que la feuille.
Oui.
La feuille a le même parfum et simplement, ça a une autre couleur. Vous pouvez les découper à l'emporte-pièce.
Bien sûr.
Le bégonia.
Ah oui, le bégonia, ça se mange aussi.
Bien sûr.
D'accord.
Qui a un goût très acidulé. C'est très...
On peut faire des pickles avec, peut-être, alors.
On peut faire du coulis. Vous allez arriver sur quelque chose de très fruits rouges.
Et ouais, super, j'adore, et puis utilisable dans les desserts. Mireille Auda, maraîchère à Gâtières, dans l'arrière-pays, écoutez, j'ai hâte de venir voir votre jardin, parce que ça doit être un petit jardin d'Éden potager. Merci Mireille d'avoir été avec nous.
Merci,
je vous laisse redescendre au jardin, parce qu'il en a bien besoin avec la chaleur qui s'annonce. Hein. Un petit peu d'eau, ça serait pas mal. Bonne journée, bel été à vous, mes amis. On vient de se donner de l'appétit. Ça tombe bien, j'ai le plus grand chef de la Côte d'Azur, du bout de la France, avec nous au téléphone.
Sud Radio, les routes de l'été. C'est qui le chef ?
Eh ben le chef, c'est un immense chef qui est à Menton, c'est Mauro Colagreco. Bonjour Mauro.
Oui, bonjour.
Comment ça va, chef ?
Bien, 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 très bien.
Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Mauro Colagreco, d'abord, c'est l'année Colagreco hein, cette année, hein, il faut bien le dire. Entre l'obtention de 3 étoiles au guide Michelin, ce qui est déjà un bâton de maréchal hein, pour un chef, et en plus être nommé meilleur restaurant du monde par les 50's Best, je ne sais pas comment on peut faire plus. Qu'en 2019, Mauro. Est-ce qu'il reste encore des challenges à relever ?
C'est vrai que cette année, ça a été une année exceptionnelle pour nous, pour l'équipe, pour la maison. Et, on est fiers.
Il y a de quoi.
On est très, très contents.
Il y a de quoi, c'est extraordinaire. Alors, je rappelle, le Mirazur à Menton, et ça ne date pas d'hier. Alors, pourtant... Voilà un chef qui vient d'Argentine, hein, qui a fait l'école hôtelière en Argentine, alors qui est passé après par des grandes maisons, je vais dire l'équipe de Bernard Loiseau, Passard, hein, qui t'a beaucoup marqué aussi dans ta cuisine. Beaucoup. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on devient le plus grand restaurant du monde avec une culture sud-américaine et la découverte des produits quand même de cette Riviera française ?
Oui, bon, il faut comprendre que je suis originaire d'Argentine, mais je fais pas une cuisine argentine. Je fais une cuisine de Riviera, cette région magnifique qui a été déjà exploité par des autres grands chefs.
Ah oui, ça, c'est riche en grands chefs, hein, comme coin de France.
Dans les passés et actuellement aussi. Et donc, mon apport, je pense que c'est justement l'interprétation de ce terroir d'une vision totalement vierge.
Oui, peu, c'est ça. Voilà. Sans référence, hein. Vous êtes arrivé avec votre vision personnelle. Oui. Mais Mauro, c'est intéressant quand vous dites, moi, je fais pas une cuisine argentine. On sait que la cuisine argentine, elle est très marquée par les produits carnés, la viande. Oui. Alors que vous, évidemment, sur cette Riviera, vous êtes plutôt un homme du végétal et du maritime.
C'est vrai. On a la chance d'avoir nous aussi un jardin chez. J'ai entendu que vous étiez avec
Mireille Auda, la maraîchère, qui parlait des fleurs et des.
Oui. Et nous, on a un très beau jardin aussi dans lequel on cultive une grande partie de nos légumes et on travaille au restaurant. Et donc, c'est vrai que c'est une des piliers de notre cuisine aujourd'hui.
C'est un petit peu la philosophie d'Alain Passard aussi, ça. C'est ce qui vous reste d'Alain Passard, la volonté de faire pousser vos légumes.
Peut-être il m'a piqué. Mais j'avais un grand-père qui avait eu toujours son jardin et j'ai des souvenirs d'enfance magnifiques avec lui et je crois que c'est mon grand-père et Alain Passard qui
ils ont partagé ça c'est vos deux grands-pères en fait. Mauro, qu'est-ce que vous mettez en avant comme produit si aujourd'hui j'arrive au Mirazur, quels sont les plats qui vous identifient vraiment à votre carte, dont vous êtes particulièrement fier?
Alors, nous, c'est une cuisine vraiment de produits qu'on fait, une cuisine qu'on essaye de transmettre en terroir, des émotions, une cuisine d'émotions.
Ouais, et presque sur mesure au moment où vous la faites, quoi.
Oui, on n'a pas de cartes, donc chaque client, il a un menu pratiquement dessiné pour lui.
Oui, c'est ça.
Et donc ça fait un travail personnalisé que les clients l'apprécient énormément.
Mais ils adorent ça. Alors, je cite encore Passard parce qu'il y a un autre de vos confrères, Pascal Barbeau à Paris, qui est passé aussi, qui a été un des premiers à faire cette cuisine adaptée aux clients, enfin presque personnalisée.
Tout à fait. Pascal, c'est un grand chef et c'était un des précurseurs de ça. Nous, plus ou moins de la même période, parce que nous, on a ouvert en 2006.
Et oui.
Donc, on est les contemporains de cette façon de faire et qui nous permet de travailler justement avec des petits producteurs, des petits pêcheurs, par exemple, qui nous amènent une cachette des poissons, mais là-dedans, il y a 10 variétés différentes de poissons. Donc, on est capable de travailler comme ça parce que on s'impose pas une recette, on s'impose que le client il puisse profiter de ses produits au son meilleur état.
Ouais, je crois que pour s'en rendre compte, il faut passer par chez vous, voilà. Hein. Et il y a pas, on peut pas, ça se raconte pas, ça se vit dans l'émotion. Maro Colagreco, merci d'avoir été avec nous. Laissez-moi vous dire que je suis très impressionné par votre parcours, parce que arriver à briller autant, meilleur restaurant du monde pour les 50 Best, 3 étoiles la même année, dans un terroir où il y a tant de grands chefs étoilés, bravo, voilà, bravo et merci hein, de porter haut la gastronomie dans ce coin de France. Et je vous souhaite un très bel été.
Voilà. Merci.
Au jardin et en cuisine. Et bonne journée. Mes amis, que d'émotions ici hein, sur cette French Riviera nous fait vivre la cuisine. Eh bien, vous savez quoi ? Quand on prend goût au grand chef, on s'en débarrasse pas facilement. On va en retrouver un autre tout de suite après la pause.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Ah mes amis, que d'émotions culinaires et gastronomiques entre Mireille Oda, notre maraîchère du mesclin et des fleurs comestibles, et Mauro Colagreco du Mirazur à Menton, meilleur restaurant de l'année pour la liste des 50 Best, meilleur restaurant du monde, vous m'entendez bien, et c'est à Menton, au bout du bout du bout de la France, de cette French Riviera. Eh bien on va continuer avec les grands chefs, parce que on en a tellement et d'immenses chefs qu'on ne s'en lasse pas.
Sud Radio, les routes de l'été. C'est qui le chef ?
C'est le plombier, comme disait Fernand Reynaud. C'est qui ? C'est le plombier. Ben non, là, c'est qui le chef ? C'est Arnaud Faye, la chèvre d'or à Aise. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Vincent.
Comment ça va, chef ?
Bah, ça va super. En pleine saison, le soleil est là, les clients sont là, donc tout va bien.
Et le site, hein, et le site de la chèvre d'or qui domine sur son éperon rocheux la Méditerranée, c'est absolument sublime. Et il faut bien le dire, vous avez plutôt de la chance de travailler depuis une cuisine où vous avez cette vue.
Ouais, c'est un joli bureau. C'est ce qu'on se dit tous les jours. Et puis c'est surtout un lieu voilà, où on a une telle perspective. Voilà, ça change au fur et à mesure des heures et surtout des saisons. Et c'est assez prenant et assez magnifique. Et ça fait 3 ans, même que je suis là. Et on s'en lasse pas.
Heureusement, hein. Pas encore en tout cas. 3 ans, c'est court dans la vie d'un chef.
Ouais,
hein.
Ouais.
Mais vous bougez pas mal, hein. Vous bougez pas mal, Arnaud. Pas mal, ouais. Vous avez, alors, quand même, il faut le dire au passage, vous avez été à l'Espadon, au Ritz, où vous avez décroché 2 étoiles. Vous êtes un bonnet, hein, un peu aux 2 étoiles, parce que la chèvre d'or, 2 étoiles au guide Michelin, l'Espadon à l'époque, le mandarin oriental, 2 étoiles, puis vous êtes passé comme chef au Jeu de Paume, à Chantilly, le domaine de Chantilly, là aussi vous avez décroché 2 étoiles, et puis la chèvre d'or maintenant avec 2 étoiles. Vous en lassez pas, en fait, hein, étoiles.
Il faut essayer d'être constant, voilà, après, les étoiles, c'est une chose. Après, il y a aussi forcément la satisfaction de nos clients et puis voilà, des équipes aussi. L'important aussi, c'est les équipes
autre chose.
Qui sont derrière.
Arnaud, 2019, quand même, c'est pas rien pour vous. C'est quand même l'obtention du col bleu blanc rouge. Vous avez réussi le concours des meilleurs ouvriers de France. 8 chefs cette année. Et alors, ça, c'est une sorte de consécration. Est-ce que vous sentez que les clients vous attendent plus au virage que d'habitude?
Non, je pense que ça n'a pas réellement changé grand-chose, en tout cas dans ma vision à moi. C'est vrai qu'on a des clients qui passent et qui disent « Ah tiens, le chef est mof » ou des choses comme ça, mais on n'a pas... Non, ça ramène pas une pression ou une attente suffisante. Je pense qu'on est dans un lieu où on a des attentes de nos clients qui sont, sérieuses, mais voilà, qui sont normales. Alors, au niveau où on veut faire la cuisine.
Dans un restaurant de ce standing et avec cette notation, je veux dire la haute gastronomie, évidemment, les gens s'attendent à trouver les produits, les plus jolis produits de la Côte d'Azur, de cette French Riviera, et notamment des poissons, hein, parce que on dit toujours, il n'y a pas de poisson en Méditerranée. Alors, vous ne faites pas que du poisson de Méditerranée, mais entre poissons et crustacés, vous en trouvez aussi.
Bien sûr, et on en trouve, et puis d'une grande qualité. On a la chance, déjà, il y a un produit, moi, je trouve vraiment exceptionnel, c'est la gamberoni, qui vient du côté de nos amis italiens.
Ça, c'est la belle crevette rouge, là, oui.
Ouais, voilà, qu'on mange, à peine cuite, hein, c'est à peine voilé, et qui a un goût, qui est vraiment croquant en bouche, qui a un goût sucré. Voilà, dans Méditerranée, on a des produits vraiment d'exception aussi.
Alors, ce qui est drôle, c'est que quand vous avez dit en bouche, J'ai senti l'accent clermontois, hein, parce que vous êtes auvergnat à votre naissance, vous êtes de Clermont-Ferrand. Ouais. Hein. C'est drôle, hein, juste là, il y a eu un petit côté en bouche, il y a un truc qui est passé. Moi, je note simplement que les plus grands chefs de la Côte d'Azur, ils viennent souvent d'ailleurs. Hein. Regardez Jacques Maximin, qui était du Pas-de-Calais, enfin, qui est du Pas-de-Calais, de naissance. Là, on était à l'instant avec Mauro Colagreco, lui, il est venu de beaucoup plus loin, d'Argentine.
Beaucoup plus loin, ouais.
Mais souvent, voilà, c'est une terre d'élection pour les chefs. C'est un endroit où tout d'un coup il se révèle aussi par les produits qu'on trouve.
Oui, bien sûr, il y a les produits. Mauro parlait tout à l'heure du maraîchage. Voilà, aussi on travaille avec nous. On travaille avec des maraîchers qui sont plus dans la vallée du Saint-Laurent, donc sur la Gaude, un petit peu plus loin dans le Var aussi. Voilà, pour avoir aussi une qualité, une diversité différente. Mais forcément, il y a déjà ce côté. On a un côté aussi de saison. Voilà, il fait quand même beau une grande partie de l'année. Ça nous apporte aussi des produits différents, des produits voilà qui sont baignés par le soleil et pour une partie aussi les embruns de la mer.
Bien sûr. Voilà, et puis vos assiettes, elles sont très fleuries, hein, très décorées. Vous aimez bien mettre de la couleur, des petits légumes, des fleurs comestibles. Enfin, je sais que vous attachez beaucoup. C'est chaque assiette est une toile, quoi, une peinture, hein, chez vous.
Oui, disons, alors le plus important, ça reste bien sûr la qualité du produit et le goût, mais après, voilà, le visuel, forcément, quand nos serveurs posent l'assiette sur table au client, le but déjà, c'est en premier, on va regarder.
De se nourrir avec l'œil, hein, déjà.
Voilà, c'est important aussi.
Bah, bien sûr.
Hein. C'est important.
Et puis alors, chaque cuisinier a ses marottes. Bon, j'ai vu que vous aviez par exemple de l'agneau de Sisteron, mais là, on reste en Provence. Mais alors, j'ai noté qu'il y avait plusieurs fois des plats autour du riz de veau. Vous aimez particulièrement les riz de veau ?
Ouais, c'est un produit que j'aime beaucoup et
comprends, c'est divin.
On a vraiment une clientèle aussi qui nous demande ces produits. C'est un produit qui est assez compliqué à travailler, qu'on fait pas chez soi, donc aussi ça permet d'avoir cette accessibilité voilà pour les clients. Et puis bon, nous voilà, c'est avec la belle pomme de riz de veau.
Oui, c'est un produit qu'on fait pas souvent chez soi parce que bon, il faut le blanchir, ensuite bien le traiter.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est au restaurant qu'on a envie de le découvrir. Et comme vous êtes évidemment un très grand chef, il est à la fois souvent bien moelleux à l'intérieur, tout blanc, puis un peu croustillant à l'extérieur, caramélisé.
On voit le spécialiste.
Non, mais j'adore ça quand c'est fait par les bons chefs. Merci beaucoup Arnaud Faye de restaurant La Chèvre d'Or, 2 étoiles guide Michelin à Aise, un site merveilleux. Vous saluerez Bono qui a sa maison juste en bas de l'éperon rocheux, hein, juste sous l'hôtel. D'au-dessus, au bord de la piscine, hein, mais il faut avoir des jumelles, hein, quand même. Voilà. Merci Arnaud, on vous souhaite un bel été et une très belle journée sur la Côte d'Azur. Allez mes amis, on se donne faim, c'est une horreur. Voilà, moi j'ai parlé de riz de veau, ça y est, je suis fichu. Jusqu'au déjeuner, je vais attendre qu'une chose, c'est de passer à table. On va se retrouver bientôt à table.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Allez, il vous reste une bonne demi-heure pour gagner le guide Michelin du jour. Il faut dire qu'on vous a servi Mauro Colagreco, 3 étoiles au guide Michelin, sur le secteur, on pourrait dire à Menton. Arnaud Faye, La Chèvre d'Orez, 2 étoiles au guide Michelin. Vous avez peut-être envie de savoir un peu ce qui se trouve sur la Côte d'Azur et ce qui est étoilé. Eh bien, on vous fait gagner le guide Michelin en appelant le 0826-300-300. Vous dites Riviera. Riviera, ça sera le mot de code aujourd'hui pour gagner le Michelin en fin d'émission. Mais qui dit passer à table dit aussi se donner de l'appétit, parce que nous, on a mauvaise conscience si on ne fait que manger. Donc, on veut se bouger d'abord.
Sud Radio, les routes de l'été, les meilleurs plans du petit futé.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent.
Alors, vous continuez à sillonner les routes de France pour nous, et on vous en remercie avec le petit futé. Et ce matin, on va du côté... Alors, tout à l'heure, on était en ligne avec une maraîchère, Mireille Audin, qui se trouve dans la direction de la Vésubie. C'est ce qu'elle nous disait. Mais la Vésubie, c'est une rivière.
Alors, non seulement c'est la rivière, mais en plus 45 km de long, donc quand même il y a de la superficie, mais aussi une vallée. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment très loin de la vision méditerranée, fond de mer turquoise. Bon, on est quand même à deux pas, de Nice, Menton.
C'est de la vraie montagne.
C'est vraiment de la montagne. C'est très verdoyant. C'est des petits villages éparpillés. Et puis surtout dans une nature qui est vraiment sauvage, préservée. C'est vraiment très sympa.
Ah oui, d'ailleurs, il paraît qu'il y a même des loups là-haut, du côté de Vésubie, puisqu'il y a eu de la réintroduction. Alors, c'est... c'est évidemment, ça fait penser à des activités de plein air, parce que c'est le cadre idéal.
C'est vraiment le cadre. En fait, cette Vésubie, elle fait partie du parc national du Mercantour,
c'est ça.
700 km², qui s'étend sur 6 vallées. Là, on est un bout de la vallée, donc vous parliez des loups, bon, bah, nous, on va plutôt voir ceux qui sont plus, être un peu plus sympathiques.
Bah, je sais pas, il y a peut-être des loups sympas. Hein.
Je sais pas.
On peut prendre moins de risques, en tout cas.
Mais également des plantes, qui, ça sera plus facile. Il y a quand même plus de 2000 espèces florales, 40 qui sont endémiques, des orchidées, des gentianes. Donc c'est vraiment le paradis des randonneurs. Puis bon, si les loups nous effraient, bon, on va plutôt s'intéresser aux marmottes et aux bouquetins.
Là, là,
normalement, c'est beaucoup plus facile. Alors ce qu'il y a de sympathique, c'est que pour les randonneurs, il y a quand même pas mal de trails, 270 km de parcours balisés, mais avec des parcours de niveau très variés. Donc ça, d'accord, c'est vrai que chacun prend ce qui l'intéresse. Du VTT aussi, il y a notamment la Transvésubienne, 25 km. Donc là, on a une découverte de toute la vallée. Et puis, moi, je vous sens bien tenté par la Grande Tyrolienne.
Moi hein, écoutez, ça m'est arrivé de rester coincé au milieu dans un accrobranche. La Tyrolienne, c'est plus pour moi.
Bah, disons que là, c'est 100 mètres au-dessus du sol.
Ah, bah
vous
voilà,
êtes,
en plus.
Lancé à 120 km/h. En gros, en deux minutes, c'est plié. On ne va pas vous demander votre avis, ni vous arrêter en plein milieu. Ça devrait aller. En tout cas, c'est beau. On peut faire du parapente aussi. Donc c'est vrai que la Vésubie, c'est vraiment la nature pure et on va vraiment en profiter.
Oui, puis là, on parle vraiment trek, mais enfin, ou trail plutôt. C'est surtout l'occasion d'aller voir des vrais petits villages authentiques.
Oui,
hein.
Oui, c'est vrai qu'il y en a plein qui valent le détour. Notamment, il nous reste des vestiges du rempart du Moyen-Âge avec des maisons très hautes, de pierres apparentes. On est coloré dans des tons jaune-orangé.
Oui, c'est coloré.
Bon, souvent, voilà, on a une petite chapelle comme ça qui surplombe le village. C'est vraiment très joli. On va se balader, on va en profiter vraiment dans les petites ruelles pavées. Notamment, il y a un endroit que j'aime bien, c'est Saint-Martin-Vésubie.
Ah oui.
Là, alors, on est à la fois cette petite maison dont on parlait, mais aussi on est à côté des villas, des hôtels de style Belle Époque, le long d'un canal, c'est absolument ravissant.
Ouais, et puis il y a Utel aussi, qui n'est pas très loin.
Alors là, on est perché quand même, on est à 1000 mètres d'altitude. Ce sont que 5 hameaux, c'est vraiment très très mignon. Une église Saint-Véran du XIIIe siècle, d'ailleurs c'est une des plus anciennes de la vallée, un grand porche à l'italienne, donc c'est vraiment très beau. Il y a aussi Lantosque.
Oui, hein, ah oui, Lantosque, c'est très très beau.
Lantosque, c'est vraiment, là aussi, on est perché sur un rocher décidément. Là, ce sera vraiment le point de départ de plusieurs randonnées. On pourra faire des descentes en kayak et même de la Via Ferrata qui part de là. On va surplomber un peu la Vésubie. Et notamment, il y a des ponts de Seiche, des passerelles. Alors ça, je ne sais pas trop si vous allez bien aimer le pont de Singe. Hein,
ça ne me gêne pas.
Ça
moi, je fais volontiers le singe en vacances.
il faut.
Non, mais on est vraiment entre montagne et Italie. Hein. On sent l'Italie qui pointe partout. Hein. Ah bah, un peu comme dans le Piémont. Quoi.
Elle est proche.
Ouais,
d'ailleurs, ça peut être une escapade hein, d'aller de l'autre côté de la frontière quand on est à Vintimille, tout simplement. C'est la première ville étape quand on vient de la Côte d'Azur. Donc, c'est vraiment tout mignon, avec les petites maisons.
Moi, j'adore
pastel.
Aller faire le marché si je suis dans le coin.
Voilà.
À Vintimille, c'est extraordinaire. Et je ne parle pas des contrefaçons, hein, parce qu'ils vendent beaucoup de contrefaçons.
Ouais,
non, je parle du marché alimentaire.
Le marché alimentaire,
ouais. Ah ouais, ouais. En Ligurie, c'est glorieux.
On mange toujours délicieusement bien en Italie, donc c'est bien. Il y a aussi la plage.
Ça, je ne connais pas.
Ah, bah si, c'est vrai que c'est une première partie. Et puis, c'est vrai que si on veut aller plus loin, là, on est sur Vintimille, mais on continue. C'est la route pour aller vers les Cinque Terre. C'est pas très, très loin.
Ouais, puis il y a San Remo.
C'est magnifique.
Bah,
l'Italie, c'est vraiment.
Ah,
c'est
l'Italie,
vraiment
l'Italie, hein.
C'est un véritable
Stéphane,
bonheur.
On adore. Alors, justement, il y a vraiment un endroit qui est entre la France et l'Italie, c'est Monaco.
Qui est un tout petit peu à part. Cette fameuse principauté, c'est tout petit, hein, c'est 2 km carrés. Je crois que c'est la plus petite après le Vatican. Hein, c'est le plus petit cité-État. Bon, on les connaît pour les hôtels haut de gamme, le luxe, le casino. Pourquoi pas le Grand Prix de Formule 1 aussi, hein, ça qui est assez, qui est toujours dans l'actualité. Il y a une très très forte population, densité, mais il faut savoir que au 19e siècle, c'était seulement 1200 habitants, hein, donc c'était vraiment tout petit. Alors, c'est une ville très très chère. Nous, on va y aller surtout pour faire un tout petit peu des visites, et notamment une qui me semble très intéressante, c'est le musée océanographique.
Ah oui. Oui, non, parce que on parle toujours du bling bling et des milliardaires.
Moi,
mais
franchement, ça, c'est pas le côté qui est très intéressant. la relève de la garde.
Il y a vraiment une conscience écologique. Elle est dans la famille Grimaldi depuis toujours.
Et c'est vrai que ce musée, il est complètement incroyable. Dans le bâtiment qui est magnifique. Alors on est accroché au rocher. Ça descend, ça chute là comme ça, 80 mètres plus bas. Il a quand même fallu 20 ans pour le construire. Ça s'est fait au début 1889-1910. 6000 mètres carrés, 90 bassins, 300 espèces différentes. Et là aussi, c'est un musée qui s'est assez modernisé puisqu'on a des visites interactives. On va vraiment apprendre plein de choses. Par exemple, il y a des poissons qui changent de sexe au cours de leur vie. Certains changent de couleur. Hein, c'est quand même incroyable ce que la nature peut être bien faire.
Ce sont des poissons transgenres.
Absolument.
C'est un peu ça.
Et on pourra aussi observer plusieurs requins. Il y a une grande nouveauté, c'est un bassin en plein air. Là, c'est plutôt pour les tortues marines. Donc c'est qu'en famille, Monaco, ça peut être aussi très très sympa.
Et puis je vous engage, si vous êtes à Monaco, à aller faire un tour du côté du marché de la Condamine. Et puis dans les petites rues, avec des petits bistrots, c'est vraiment pas l'image monégasque habituelle, mais il y a un vrai Monaco des monégasques et il est bien de le découvrir.
Et c'est une belle escapade aussi. Ouais.
Merci beaucoup Stéphane. On se retrouve demain, toujours avec bonheur.
Avec plaisir.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Ouais, j'ai pas du tout voulu embêter Stéphane. On sent qu'il est pas monégasque. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, Marine, c'est le monégasque, bon teint, qui connaît les bons plans. Parce que je veux connaître le Monaco des monégasques, pas le Monaco. Vous l'avez compris, vous?
Bah oui. Hein, bah
j'ai
oui.
été clair quand même. Bah, vous savez quoi? On va passer, comme on dit, coup de fil à un ami, dans d'autres émissions. Et c'est Jean-Marc Ferrier qui est avec nous. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour Vincent.
Vous êtes président de l'association Au cœur de ma ville, une association monégasque. Alors vous, justement, ça m'intéresse. Vous voyez, je parlais à l'instant du marché de la Condamine. Moi, si je vais à Monaco, c'est presque un passage obligé pour moi.
Oui, absolument, parce que à la Condamine, eh bien, il y a le marché de la Condamine, et dans ce marché, il y a des bistrots conviviaux. Hein,
et oui.
Et
puis on peut goûter les fameux barbajouans.
Ah, le barbajouan, c'est la spécialité locale, j'oserais dire.
Hein. Ouais.
Entre Monaco, Menton et Roquefort-Camarquin. Hein. Voilà, c'est la.
Vous pouvez m'expliquer ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est merveilleux.
Les barbajouans, ce sont des petits peignets. À l'intérieur, il y a ou de la blette, ou de l'épinard, il y a de la ricotta.
Ouais.
Il y a un petit peu d'oignon et basta.
C'est une sorte de beignet, quoi. Hein. C'est un petit beignet
c'est,
de.
C'est une sorte de beignet, généralement, qui se mange dans les jours de fête.
Ouais, voilà. c'est ça.
On peut en manger toute l'année. Hein.
Bah, c'est souvent au carnaval. Et puis,
il y a deux écoles qui se confrontent. Il y a ceux qui mettent la charcuterie dans les barbajouans.
Ouais.
Et ceux qui n'en mettent pas. Et moi, je fais partie de ceux, comme dit, on ne met pas de charcuterie dans les barbajouans.
Ah non. Non. Mais pour moi, c'est végétal. Hein. Attention, hein. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est formidable en rentrant dans le marché au fond à droite. Vous avez un, on va dire, quelqu'un qui confectionne la soca, qui est une merveille. Hein. Voilà.
Bah, la soca, c'est une religion. Hein. C'est pas seulement à Monaco, mais dans toute la côte.
Voilà, hein, toute la rivière là. Oui. Mais
toute la rivière. Hein. Vous savez, c'est la farine de pois chiche avec de l'huile d'olive, de l'eau. On mélange, ça fait une pâte très légère et qu'on enfourne dans un four très chaud sur une plaque en cuir en plus.
Sorte de galette de farine de pois chiche, quoi. Hein.
Oui, voilà, très fine. Ça se déguste normalement sur place, avec devant un petit rosé devant un petit ballon de rosé ou de rouge. Hein, et puis au marché de Condamine.
Voilà. Ah ben voilà, Jean-Marc. Là, on touche au Monaco des Monégasques. Là, c'est pas le rocher, c'est pas le casino. Voilà, là, c'est vraiment
Monaco.
Ben alors, c'est ça qui m'intéresse, parce que quand on pense à Monaco, alors tout à l'heure, on avait des très grands chefs de la Riviera, Mauro Colagreco, Arnaud Faye, mais à Monaco, évidemment, alors un nombre de restaurants étoilés, je pense évidemment à Alain Ducasse et à Franck Cerutti, hein. Je pense à Christophe Cussac qui tient le restaurant Joël Robuchon, à Marcel Ravin, enfin il y a un nombre d'étoiles incroyable, mais moi ce qui m'intéresse, Jean-Marc, c'est que vous me disiez, voilà, si je suis avec des copains monégasques, où est-ce qu'ils vont m'emmener? C'est où les petits bistrots, les petits...
Et moi, je vais vous emmener dans deux endroits.
Ouais.
Le premier, vous avez déjà cité le marché de Condamine.
Hein, oui, bien sûr. Ça, c'est pour le casse-croûte, ça.
Voilà. Mais surtout, un petit repas à midi, hein, pour le lunch. Je vais vous emmener au club bouliste du Rocher.
Ça me plaît.
Alors
ça.
Là, c'est un club bouliste, c'est une association qui accepte les visiteurs, hein,
ouais.
à condition qu'il y ait de la place pour eux. Ouais. Et c'est vraiment dans un cadre arboré de pins, hein, des pins bien chez nous. Il y a des jeux de boules. La langue, hein, chez nous, on joue à la langue. Et voilà, donc vous pouvez commander de la, un repas de type familial. Donc,
ouais, sans, génial. Sans génial. Prétention. Ouais, parce que vous savez bien, je vais pas vous le dire à vous, mais l'image de Monaco, c'est grosso modo Grand Prix de Formule 1, le Monaco Yacht Club. Enfin, on sent quand même.
Oui, oui. Hein, voilà.
Mais il y a quand même des Monégasques, je veux dire, de souche, qui ont besoin d'une vraie vie de petite commune. Est-ce que par exemple il y a des pêcheurs à Monaco? Est-ce qu'il y a des petits pêcheurs encore?
Oui, il y a encore un pêcheur professionnel.
Ouais.
Ouais. L'entreprise de Rinaldi, hein.
Ouais.
Ils sont sûrs que c'était de père en fils, mais il faut dire que déjà au XIVe siècle, XVe siècle, il y avait les Monégasques, c'était des pêcheurs, et ils allaient.
Bah oui.
Alors, comme anecdote, je peux vous en raconter, c'est qu'il y avait les habitants de la Turbie, hein, qui étaient
oui.
les Monégasques.
Ah ben bah on va y aller tout à l'heure, on va appeler Bruno Cirino, le grand chef de la voilà. Turbie, mais parlez-moi de ça.
Absolument. Donc il y avait les pêcheurs de la Turbie qui descendaient, si vous voulez, sur la côte monégasque, et il y avait les Monégasques qui étaient sur le rocher, qui voulaient aussi pêcher, donc ça faisait des troubles, tout ça.
Eh
donc,
ouais.
c'était un peu régulé par le seigneur de Monaco, donc qui donnait des directives pour ouais. que, tel jour, ce soit les gens de la Turbie qui viennent pêcher.
Ah, c'est ça. On distribuait un peu la pêche, quoi. Ouais.
Voilà.
Il y a des réglementations. Bon, bah, vous savez quoi, Jean-Marc Ferrier, merci parce que vous faites vivre vraiment le Monaco des Monégasques. Alors, votre son de téléphone n'est pas génial, mais j'ai appris que bientôt la 5G serait partout à Monaco. Oui. Ça va changer la vie, ça.
Oui, je crois que nous sommes les précurseurs de la 5G.
Effectivement.
Vous pensez bien que sur les réseaux sociaux, ça donne à comment faire.
Ah oh ben, je me doute. Et on vous rappellera, dès qu'il y aura la 5G et dès qu'on aura envie de visiter le Monaco des Monégasques, ce petit Monaco méconnu, loin des paillettes et de l'or qui brille. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir fait vivre cette âme monégasque, j'ai envie de dire Monaco village, Marine. Hein. C'est un peu ça, ce matin. Côté port, côté village. Allez, on revient immédiatement pour continuer de se donner de l'appétit juste avant d'en terminer. Et là, ça va être terrible, vous allez voir.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Nos routes de l'été qui continuent de nous mener de Nice jusqu'à Menton, cette partie merveilleuse qu'on appelle la Riviera française. Je vais le dire en français parce que dire French Riviera tout le temps, c'est ridicule. Ça laissera entendre qu'on est anglo-saxon ici. Alors, pas du tout ce matin. Et vous savez comment on est ? On a mauvaise conscience, en général.
Hein. En général.
On est tellement avec les chefs, on parle tellement de gastronomie, tellement de beaux produits, que Marine et moi, on se dit, allez, un petit peu d'exercice avant de prendre le menu du jour. Allez, c'est l'heure de l'exercice.
Sud Radio, les routes de l'été, ça, c'est du sport.
Et alors, c'est du sport qui est vraiment du sport ce matin, parce que lorsqu'on pense French Riviera, je ne peux pas m'empêcher de le dire, Riviera française, on pense évidemment littoral, on pense Méditerranée, mais les Alpes-Maritimes, c'est aussi de la montagne et j'ai en ligne Nathalie Clément qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous êtes la directrice de Vésubia Mountain Park, autrement dit le parc montagneux de la Vésubie, de cette belle vallée dont on a parlé à Saint-Martin-Vésubie, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc vous êtes vraiment tournée vers de l'activité montagne. Vous nous rappelez que les Alpes-Maritimes, c'est d'abord les Alpes.
Voilà, là on est en montagne, en plein cœur de la montagne et on vous fait pratiquer plein d'activités de montagne en indoor.
C'est-à-dire que vous êtes déjà dans le parc du Mercantour sur votre commune ?
Pas encore tout à fait.
Vous êtes aux abords. Quoi.
Voilà, tout hein à fait.
Mais enfin c'est bien le même biotope, c'est-à-dire de la vraie montagne et en plus il fait beau. Alors,
oui, on est à 1000 mètres d'altitude.
Ah bah quand même, voilà. Et alors, vous êtes tourné vers quel type de sport ? Je suppose de l'escalade, de la spéléo, tout ce qui touche vraiment la montagne ?
Alors, le Vésubia Mountain Park, c'est que des activités en intérieur.
Oui.
Donc, on a du canyoning, de la spéléo, de l'acrobranche, de l'escalade, également une partie grimpe ludique. Et
oui,
on n'a pas que de la montagne, on a aussi de la piscine avec un espace aquatique et un espace bien-être.
Ah bah oui, surtout quand il fait cette température. Quoique, dès qu'on monte un peu en altitude, il fait quelques degrés de moins. Alors, parlez-moi à l'initiation à l'escalade, parce que moi, je trouve ça extrêmement bien pour la coordination des mouvements, des gestes, pour lutter contre la peur du vertige. Vous prenez des élèves très jeunes ?
Alors, ça commence à 5 ans. Donc ah, là, voilà. Le Vesubia Mountain Park, donc c'est un, pour juste resituer, c'est un bâtiment qui appartient au département des Alpes-Maritimes et qui est géré par l'UCPA. Et donc l'UCPA a à cœur d'initier au sport de montagne via le Vesubia pour ensuite pouvoir aller à l'extérieur.
Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est venir faire ses classes, faire son apprentissage dans un cadre surveillé pour après être un peu lâché dans la nature.
C'est l'idée, c'est de faire découvrir ces sports par le Vesubia.
Mais beaucoup de gens découvrent l'escalade par les murs, hein, qu'ils soient scolaires ou simplement sur des parcs comme le vôtre.
Oui, 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 l'escalade se développe beaucoup en intérieur maintenant. Ça permet le côté accessibilité hein, de beaucoup de salles qui se développent en ville. Oui. Nous, bah, c'est encore plus facile, c'est qu'on est déjà dans la montagne.
Mmh. Et qui est votre clientèle? Alors, est-ce que ce sont des locaux ou est-ce que c'est exclusivement des visiteurs, des touristes?
Alors, on a les deux. On a des locaux hein, qui ont des abonnements à l'année ou des cartes de 12 entrées pour pratiquer régulièrement. Mmh. Et on a également beaucoup, beaucoup de touristes.
Et vous avez beaucoup de personnel qui encadre, qui surveille, qui aide, qui enseigne?
Alors, toute la partie vraiment salariée, donc aussi bien les moniteurs, comme vous dites, que les agents d'accueil, les agents d'entretien, on est 18 et on monte à 28 l'été.
Eh oui, donc des saisonniers qui sont souvent des gens de la région qui ont une autre activité pendant l'hiver?
Les saisonniers, non, c'est des étudiants. Qui
des étudiants, d'accord. Ah oui, bah, qui UCPA oblige, évidemment.
Voilà.
Donc des étudiants qui ont leur BAFA et puis qui viennent réaliser certaines activités.
Alors c'est du brevet d'État ou du monitorat.
Ah d'accord,
fait, sur nos activités.
Là du monitorat pour le coup.
Oui.
La spéléo par exemple en intérieur, parce que je vois que vous avez un chapitre spéléologie, comment est-ce qu'on s'initie à la spéléologie dans un bâtiment? Vous avez des gros tuyaux?
C'est un peu ça, oui, exactement. C'est une spéléo qui est refait en intérieur, donc on rentre dans des gros tuyaux qui sont vraiment, on se croirait à l'intérieur. Hein. Il y a des stalactites, des stalagmites, des grottes.
Ah, vous reproduisez vraiment le cadre naturel?
Oui. Tout à fait. Il y a 80 mètres de parcours.
80 mètres, oui, c'est pas mal hein, quand on est enfermé, quand on est vraiment serré dans un boyau, comme on dit en spéléo.
Tout à fait.
C'est pour lutter contre l'appréhension.
Exactement, ça permet aussi de pouvoir tester, se dire « ah ben non, là moi je peux pas, je sors à la prochaine étude de secours ».
C'est ça, si déjà dans 80 mètres de tuyaux, même décoré avec des stalactites, on sent le malaise, on va pas aller se jeter dans un gouffre, hein, non, c'est sûr.
Complètement.
Bon, bah, ok, merci beaucoup. Nathalie Clément, on rappelle que c'est à Saint-Martin-Vésubie, hein, c'est dans les, on peut dire derrière Nice, hein, en remontant.
À une heure de Nice.
À une heure de Nice, hein, mais c'est déjà les Alpes, c'est déjà la montagne. Et si vous aimez la montagne en été, ce qui est mon cas d'ailleurs, parce que souvent on oublie la montagne, on pense tellement à la mer, surtout dans les Alpes-Maritimes, c'est un bon moyen d'être plus tranquille, hein, de remonter un peu du bord de mer qui est souvent très, très visité, très occupé en cette saison, et de prendre un peu de calme, et là, de faire du sport pour le coup, mais en intérieur. Voilà, et quand il fait très chaud, c'est pas mal aussi de faire du sport en intérieur. C'est une bonne alternative. Merci Nathalie Clément, on vous souhaite beaux mois d'été et de belles vacances à ceux qui sont dans votre coin des Alpes-Maritimes. Voilà, bonne journée.
Alors, bonne journée à vous.
Voilà, on va peut-être prendre le temps maintenant, ma chère Marine.
Ah, de manger?
Ah bah il serait temps. non, parce que Marine, je la vois, elle décroche un petit peu avec le sport. En revanche, dès qu'on rappelle un chef, bah si, on peut le dire, je peux balancer, vous savez, moi j'ai aucun problème avec ça. C'est comme si quelque chose s'allumait dans votre œil au moment où on annonce le menu du jour.
Sud Radio, les routes de l'été, le menu du jour.
Alors, vous entendez dans le générique un bruit de glaçon dans les verres? Pas du tout, c'est la paupière de Marine qui s'ouvre. Ça fait ce bruit-là, dès qu'on parle de menu du jour sur la Riviera française. Et je suis à nouveau, j'ai envie de dire, parce que quand même on les collectionne ce matin, hein, ça va être le troisième, très grand chef de la région, c'est Bruno Cirino. Bonjour Bruno.
Bonjour, je suis pour le salon.
comment ça va à l'hostellerie Jérôme? J'imagine que le temps est superbe comme d'habitude. Hein,
et... Oui, c'est même trop chaud pour les marchés parce que la canicule, il faut vraiment aller à la chasse aux produits parce qu'avec cette chaleur, on n'a pas grand chose de vraiment tendre.
Hein. Et il faut cueillir tôt, hein, les petits légumes.
Oui, très 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 tôt. En ce moment, c'est très difficile. Par contre, les fruits sont extraordinaires.
Oui, alors là, vous devez être gâté de ce côté-là. Et alors, vous avez là aussi, comme beaucoup de grands chefs, je rappelle que l'Hôtellerie Jérôme, vous avez 2 étoiles au guide Michelin. Je passe d'ailleurs sur un épisode fâcheux où vous êtes redescendu à 1 étoile, mais pour moi, c'était vraiment immérité. Voilà, et tout le monde s'est emporté dans le monde de la gastronomie en disant comment c'est un scandale, comment est-ce qu'on peut retirer sa 2e étoile à Bruno Cyrino. Et on est très heureux que vous l'ayez retrouvé. J'espère qu'elle est bien accrochée là.
Oui, hein,
ouais, c'est très important.
Mais parce que moi et toute l'équipe, on est bien heureux d'avoir
bien sûr
redécroché, comme vous dites.
Bien sûr. Et je rappelle que vous avez, on l'a cité dans l'émission Jacques Maximin, vous avez travaillé avec lui, vous avez été son bras droit pendant des années. Et puis vous avez travaillé avec Ducasse. Vous avez travaillé avec des très grands chefs.
Oui, j'étais le bras droit de Ducasse. J'étais également bras droit de Roger Verger, Ducasse. Enfin, les grands chefs de la Côte d'Azur.
Tous les grands chefs de la Côte d'Azur, vous les avez côtoyés avant d'être à votre compte, comme on dit.
Voilà, exactement.
Et aujourd'hui, vous faites une cuisine, alors on peut dire d'une certaine manière très épurée, mais toujours à la gloire des plus jolis produits. Parce que vous êtes un sourceur, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que vous allez vraiment chercher les produits optimaux.
Oui, j'ai des grandes tournées de marché qui durent entre 6 et 8 heures par jour. je fais tous les ports de Légurie, les marchés de carrosses, jusqu'à Antibes.
Vous leur faites peur un peu d'ailleurs, Vous leur faites peur un peu aux gens sur le marché. Quand vous débarquez, ils se disent oulala, on peut pas la lui faire à Bruno.
Non, mais maintenant c'est un peu plus facile pour moi puisque ça fait quand même 40 ans que je fais les marchés, donc je connais les jardiniers, les bons jardiniers, les bons producteurs, ceux qui nous font des choses superbes.
Je sais. Et on peut se régaler chez vous. Alors, Bruno, rapidement, parce que le temps court et qu'on a drôlement faim, donnez-moi le menu du jour. Si j'arrive à l'Hôtellerie Jérôme aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver en entrée ?
Eh bien, aujourd'hui, ce serait un menu royal. C'est
oula,
vraiment le royal. Bon, on commencerait par des gamberoni qui ont été pêchés à Saint-Rémy. C'est une grosse gambasse qui ressemble un peu à une cigale de mer.
C'est une merveille. Il nous en parlait, Arnaud Faye, votre collègue tout à l'heure.
C'est pêché,
un produit extraordinaire,
ouais,
ça.
Oui, c'est pêché en Ligurie, entre Saint-Rémy et Gênes. Mmh. Bon, ça pêche, c'est à 800 mètres de profondeur. C'est très réglementé. On l'appelle l'eau rouge de Ligurie, tellement c'est rare et onéreux.
Gambero Rosso. Voilà. Et dites-moi, comment vous le préparez ?
Alors moi, l'été, avec cette chaleur, c'est très très simple. On le prépare simplement rôti au four.
Ouais.
Très rapidement avec de l'huile d'olive. Ensuite, on la laisse un peu s'infuser dans des feuilles de verveine.
Ouais.
On la décortique et on l'arrose avec un jus Bellini, c'est-à-dire un jus de champagne aromatisé de pêche fraîche blanche.
Eh ben, dites donc. Voilà. Mais dites donc, Bruno,
c'est très léger,
oui.
C'est rafraîchissant.
Ah, mais je dis oui. Bien sûr. Et comme plat, alors, après cette belle entrée en matière.
Évidemment, on reste toujours dans les trucs royaux. C'est le chapeau de mer. Le chapeau de mer, c'est vraiment le roi de la Méditerranée. Alors celui-là, j'en ai trouvé ce matin. Là, il faut le choisir bien rouge, bien rouge.
C'est une rascasse, c'est une variété de rascasse.
Oui, c'est une rascasse. Ouais. Mais bon, vous avez des chapons qui vivent en grande profondeur, et puis vous avez les chapons de mer qui sont à 30 mètres de profondeur.
D'accord.
Donc des chapons qui se nourrissent des trilles, de coquillages, des petites crevettes, des choses comme ça. C'est fabuleux. Donc quand vous voyez un chapon, il faut toujours les choisir les plus rouges possibles.
Les plus rouges.
Alors là, on le met directement au four avec un peu de fenouil sauvage, de l'ail et des petites lamelles de pommes de terre. On laisse cuire une demi-heure, on arrose bien avec de l'huile d'olive, du basilic et des tomates.
Ouais.
Et ensuite, on le laisse un petit peu reposer avant de le mettre en filet.
Ouais.
Et ensuite, avec les carcasses, on fait un jus très nature qu'on fait bouillir avec encore un peu avec tous les aromates, un peu de sarriette, toujours du fenouil sauvage. C'est la Provence, l'été.
J'ai Marine en face de moi qui salive, c'est terrible à voir. Je vous fais pas le tableau. Est-ce que votre femme est dans le coin ? Est-ce que Marion est à côté de vous ?
Oui, elle est à côté de moi.
Alors, parce qu'il faut que je raconte qu'à l'Hôtellerie Jérôme, et c'est pas courant, c'est madame qui tient les clés de la cave. C'est elle qui s'occupe du vin. Vous pouvez me la passer 2 secondes, Marion ?
Elle s'occupe du vin, elle a quand même 50 000 bouteilles, elle a de quoi s'occuper.
Oui, ça, elle a de quoi s'occuper, c'est du temps plein.
Je vais la passer dessus.
Oui, passez-moi Marion. Bonjour Marion. Ah ouais, bah elle est juste à côté. Ça va, Marion ?
Oui, très bien.
Vous avez entendu ce qu'il a dit, votre mari, les gamberoni et après la rascasse, le chapon de mer.
Oui.
Qu'est-ce qu'on boirait comme vin avec ça aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'on boirait ? On va rester local.
Ah bah, s'il vous plaît, il y a de quoi faire. Hein.
Il y a de quoi faire. On va aller chercher un petit trésor de l'arrière-pays, peut-être un bélet.
Ah, ça, c'est le vin de Nice, alors, des
voilà,
hauteurs de Nice.
Exactement, un de l'arrière-pays. Ah, évidemment, un bélet
ouais,
blanc,
ouais.
Jeune, peut-être le Clos Saint-Vincent.
Ah bah, écoutez, Saint-Vincent, moi, ça me va. Hein.
Voilà,
ça, c'est le saint le plus proche de la viticulture.
Exactement,
hein.
c'est le patron
des vignerons.
Et voilà, c'est le patron.
Et ça, on peut le garder sur les gamberoni et sur le chapon, c'est-à-dire garder le même
oui.
vin.
Ah oui, oui. Et surtout sur le chapon, parce que ça sera plein de fraîcheur, c'est un vin un peu nerveux. En ce moment, c'est le 2017.
C'est quoi comme cépage, le bélet blanc ?
C'est pur roll, c'est-à-dire du Vermentino.
Vermentino, hein, voilà. C'est vraiment le cépage de la Côte d'Azur. Hein,
exactement. Exactement.
Et c'est merveilleux. Repassez-moi votre homme, là, que je lui demande le dessert, parce que j'ai oublié de lui demander.
Ah,
et puis, vous allez m'aider après. Pour trouver un vin pour le dessert, c'est jamais facile, en général.
Bien sûr, bien sûr.
Allez-y. Bruno.
Allô ?
On fait pas ça d'habitude, hein, mais oui, je voulais vous demander, parce que là, elle nous a indiqué un vin formidable, qu'est-ce qu'il y aurait comme dessert pour ce menu royal ?
Alors, aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé des super framboises très, très, très juteuses. C'est incroyable le jus qu'elle dégage. Donc, je les ai simplement écrasées à la fourchette. Ensuite, je les passe à la turbine, à glace.
La turbine, c'est pas le nom de votre commune ? La turbine ?
Non, la turbine, c'est presque pareil. C'est presque la même chose. Disons qu'on va les passer à la sorbetière, si
ouais,
vous préférez.
Ouais, ouais.
Et on les passe à la sorbetière, mais sans sucre.
Ah, nature.
Nature. Elles sont tellement gorgées de sucre et de jus que c'est inutile. Ensuite, on la présente. Je prends du lait de bufflon de Cuneo, qui est le plus près de chez nous. Et je fais un lait caillé de bufflon.
Ouais.
Que je pose dessus, j'arrose avec un jus évidemment nature de framboise,
ouais.
Et je mets des petites tranches de citron confit dessus.
Une sorte de panna cotta nature,
voilà,
de bufflon.
Mais quand même un petit peu.
Oh là 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 là. Oh Bruno, j'aimerais venir. Et là l'émission se termine.
Venez.
Demandez à votre femme comme ça. Qu'est-ce qu'elle servirait comme vin avec, juste pour terminer l'émission.
Qu'est-ce qu'elle servirait comme vin avec le... Ah, je vous le repasse alors.
Rapidement.
Alors rapidement, on va traverser la Méditerranée, on va en Corse,
ouais.
Avec de chez Jean-Baptiste Arena, Grotte di Sole et un muscat du Cap Corse.
Muscat du Cap Corse,
sublime,
oh là là
sublime
là là là
avec
là
nos petites framboises.
Une splendeur, bah vous nous avez drôlement envie de donner envie d'aller à la Turbie aujourd'hui.
Il en perd son matin.
Je suis tout mélangé maintenant. Bonne journée à vous et une bonne saison avec vos clients qui sont des gens heureux. Nous, on a fait une très belle virée du côté de la Riviera française.
Et on a rendu quelqu'un heureux, hein, Michel de Carpentras, qui gagne le guide rouge, le guide
c'est
Michelin.
C'est lui, c'est Michel de Carpentras, Michel. Il n'est pas très loin, il pourra aller jusqu'à la Riviera.
Tout à fait.
Avec son guide Michelin. Je rappelle l'Hostellerie Jérôme à l'instant, les Chirino, Marion et Bruno, 2 étoiles au guide Michelin. Il pourra le vérifier dans son guide rouge. Allez, bonne journée à tous sur Sud Radio. Je vous laisse avec Meillan et Junio, histoire de rigoler un peu. Ça donne de l'appétit aussi. Et demain, on sera où, Marine ? On va se balader du côté du Puy de Dôme. On sera en Auvergne. Et là aussi, on va retrouver du bon appétit. Bonne journée.